c'est l'heure. L'heure de débattre. L'heure de s'informer puis de se divertir.
Donne-moi un nom.
Marceau le midi.
Tu veux savoir ce que je fais pour gagner ma vie? C'est simple, beaucoup de gens font des promesses et puis ils oublient de les tenir. Et je suis payé pour leur rafraîchir la mémoire.
Live de Québec, voici Marceau, Pascal CV et Tom Gauthier.
C'est pas chaud, mais on est là, mesdames, messieurs. Salut la CV.
Salut.
Content de te voir.
Moi aussi.
Ça n'a pas été encore nettoyé.
Que tu dis ça ou c'était comme protocolaire, comme quand on demande à quelqu'un, hey, salut, ça va?
C'est un automatisme.
Ah, OK, d'accord. Oui.
C'était-tu prévu ce que le goéland nous a laissé dans les fenêtres ici à la station?
Ouais, c'est là depuis le début de la semaine, des belles petites crottes de mouettes.
Ah, ça s'appelle ouais. « J'ai vidé mon fion dans une fenêtre ».
C'est pas si pire quand t'habites au rez-de-chaussée. Tu sais, tu peux nettoyer tes fenêtres toi-même. Au cinquième étage, c'est un peu plus complexe d'appeler le boss et dire « Hey, peux-tu faire nettoyer les fenêtres? »
Non, puis je me risquerai pas, tu sais.
Ouais, on va appeler la grue.
Hey, mais peut-être qu'il y en a une dans le coin.
Ouais, mais on dirait qu'il a mis ça là intentionnellement.
Pour nous faire suer.
Pour nous faire chier, pour pas faire de mauvais jeu de mots.
Peut-être, exact.
C'est-tu à qui j'ai repensé? Je sais pas s'il est à l'écoute. Notre ami qui fait du...
Unicycle électrique, c'est ça?
Ça s'appelle un Giro...
Giro roux.
T'as repensé au Giro fou.
Il est pas venu nous voir, le Giro fou, dans le stationnement.
Bientôt, il va venir.
Il appartient de Montréal, c'est ça?
Il va venir. Ça fond. Laisse ça fondre un peu, puis d'après moi, on devrait voir plus de Giro roux. Moi, j'ai magasiné en fin de semaine.
T'as magasiné quoi? Parce que moi aussi, j'ai magasiné de l'électrique. Là,
un Giro roux.
Non.
Je ne l'ai pas acheté encore.
Ah, tu y penses sincèrement?
Mais là, j'étais en train, de regarder où ce que je pourrais couper. Donc, je pense que j'ai trouvé
arrête de me faire des
l'éducation
cadeaux,
de mes enfants.
Ah, oui, c'est très bon ça.
Je vais enlever quelques centaines de dollars là.
La nourriture aussi. M'organiser.
La nourriture.
Couper dans les fruits et légumes.
Exactement.
Un peu plus de Pepsi, ne jamais tuer son homme.
On sait où couper.
Je sais pas vous autres, là, mais magasiner le soir, faut pas faire ça. Tu sais, quand on est sur le divan chez nous à la maison, on n'a rien à faire, on a pris un petit cocktail, je sais pas moi, deux, trois Coors Light ou encore un petit verre de vin. Puis tu t'en vas sur Amazon, on dirait que tout est accessible.
Ouais, moi, c'est Marketplace. C'est vraiment pas une bonne idée, Marketplace. Puis j'ai déjà un de mes amis qui a acheté une colombe sur Marketplace, bien chaud. Il trouvait ça très drôle sur le coup avec l'effet de l'alcool.
Ouais.
Mais quand on lui aurait écrit le lendemain à quelle heure vous venez la chercher, et la colombe, il l'a eu 6 ans. Il l'a gardée jusqu'à sa mort.
Quand même.
Ouais, ben il s'est dit.
Bravo.
Il faut que j'honore l'achat que je viens de faire.
Non, mais au moins, c'est lui qui l'avait acheté. Nous autres, on faisait dans le temps, faites plus ça jamais.
Faites plus ça.
Mais c'était des échanges de cadeaux, puis c'était celui qui fait le plus n'importe quoi.
T'sais. Le pire cadeau.
Puis à un moment donné, il y en a un qui a donné une poule.
Une vraie poule. Cauchemar.
Puis notre chum qui nous recevait cette fois-là, il venait de se séparer avec sa conjointe, donc il était seul dans son condo. Et quand il s'est levé le lendemain, il était seul avec la poule qui avait chié partout dans la maison.
Bien, pour vrai, j'allais dire, j'espère que le gars, c'est pas celui qui a gagné la poule puis qui l'a amené dans son condo.
Non.
Et puis ça fait autant de grabuge que dans la fenêtre et même plus, là.
Puis je pense que, parce que il y avait...
Il y avait
l'échange de cadeaux chinois aussi, là, tu peux te le voler à la fin et tout ça. Puis, il me semble que c'est moi qui l'avais eu en premier. C'était comme dans un vari-bari du poulet frit Kentucky.
OK.
Puis là, quand j'ai ouvert ça, c'était une poule qui était vivante.
Mais non, à taper, là. Non,
une joke à la PFK.
C'était une image dans le vari-bari, puis la poule était dans une cage à l'extérieur. Elle n'était pas confinée dans le vari-bari.
Non, je te confirme qu'il avait confiné la poule, là. Tu sais, puis quand on l'a sortie de là, la poule
était... Qui se ressemble, ça semble, il paraît.
Très, très, très heureuse. C'est juste que le lendemain, tu te ramasses avec une poule, puis là, mon chum avait été à la porter à la SPA. Ouais.
À quelle histoire?
Parce qu'il était confiné avec la poule pour une nuit, parce que la SPA était pas ouverte.
J'ose pas imaginer ce que les gens de la SPA peuvent vivre des fois. T'sais.
Non, parce que c'est triste, là. Cette poule-là, ça reste un animal vivant.
Ouais.
Elle, c'est un joke. Puis elle se ramasse à SPA après.
Ouais.
C'est pas drôle.
Non, c'est ça. Puis finalement, à SPA, il l'avait repris. Mais je sais que des fois, il y a des petits cadeaux
PFK,
qui se font à Pâques, là. Il y en a qui...
Des lapins, des poussins.
Tout ça. Vous pouvez les louer. T'sais, l'instant de Pâques pour que les enfants puissent côtoyer les petits poussins, puis c'est bien cute.
Vous pouvez aller à la fermette aussi, il y en a.
Vous allez les reporter par la suite. Mais la poule, ça va rester à tout jamais dans ma mémoire. Ça m'était déjà arrivé, nous autres, quand j'avais 15 ans, je travaillais au McDo sur la rue Saint-Jean, puis il y a une poule qui avait été trouvée aux toilettes du deuxième étage.
Non.
Ouais.
OK.
Et là, nous, de descendre et de dire au gérant, « Martin, on a trouvé une poule au deuxième étage. Et là, Martin de dire, ben ouais, mais c'est sacré sauve vidange, pas grave. Là,
sacré t'sais. La poule
sacré vidange. Sauve-vidange. Ben lui, dans sa tête, c'était une décoration. Là.
OK, 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 c'était pas une poule vivante.
Non, non, c'était une décoration. Puis là, ouais, mais tu comprends pas, on peut pas sacrer au vidange. Et ben comment ça? Ben il dit, c'est vraiment une poule vivante. Fait qu'on avait été chercher la poule. Puis quand on est sorti avec la poule sur le trottoir, Pascal, regarde-moi, là. Quand on est sorti avec la poule sur le trottoir, il y avait un gars qui semblait être un sans-abri. Puis on lui a dit, est-ce que vous voulez une poule? Il a dit, hein, oui. Puis il est parti avec la poule.
Mais vous l'avez... Ça veut donner la poule à un itinérant.
Ben oui.
Mais cette personne-là a peut-être fait un barbecue. Hey. Moi, je suis super mal à l'aise de ces histoires-là, honnêtement.
Qu'est-ce qu'il a fait avec la poule?
Habituellement, j'ai des choses à dire. Je cherche mes mots, je cherche mon état d'âme.
Mais c'est des affaires comme ça qui arrivent dans la vie.
Émotions.
Que t'es mieux de pas trop réfléchir. Ben qu'est-ce qu'il a fait avec la poule?
Sais-tu quoi? T'es peut-être mieux de plus réfléchir à savoir si tu le donnes à quelqu'un qui passe dans la rue.
Ouais, mais t'aurais fait quoi?
Ben,
c'est quoi?
Pas l'homme SPA, là.
Non, non. Moi, j'ai. On avait un souci. On a transmis notre souci à quelqu'un qui
l'a accepté. Quelqu'un était content.
Fait que j'avais plus de soucis rendus là.
Aïe, 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 aïe. Mais je pense que de donner un animal de compagnie, quel qu'il soit, en cadeau est une très mauvaise idée, à moins que ça ait été formellement demandé. Genre, je veux un chien. Si jamais vous voulez me faire plaisir, à un moment donné, je veux un chien, telle race, telle affaire qui provient de là, adulte ou pas. À moins que ça ne soit pas formellement prononcé, on ne donne pas d'animaux de compagnie.
C'est ça un conseil de vieux bonhomme?
Vas-y.
Quand tes enfants vont te dire « Maman, non. On aimerait savoir des chats. » Puis là, tu vas dire « Oui, mais je veux pas m'en occuper, moi. » Donc, c'est vous qui allez vous occuper des chats, la litière, la nourriture. Croyez-les jamais.
Ben nous, on a fait ça à nos parents. On n'a jamais respecté les règles.
Papa, on aimerait ça adopter un chien. OK. Est-ce que vous allez vous occuper de son éducation, les pipis, 2-3 fois par jour, certains? Une longue balade à chaque jour? Oui, t'inquiète pas, promis. C'est pas vrai.
Tu vas être le meilleur papa du monde.
C'est les meilleurs menteurs du monde, les enfants.
Mais toi, t'as rien c'est compris de tes erreurs, par exemple, parce que t'as eu deux chats. Non, t'as eu un chat, un autre chat. T'as eu un chien. T'as eu un lézard. T'as tout ça, là, à la maison. Il te manque peut-être. Il va t'en demander des rats, puis tu vas dire oui.
Moi, j'ai un zoo.
Premièrement, t'es le gorille de la place.
Plus capable.
Puis t'as accepté plein d'autres animaux.
Exact. Puis j'ai l'impression que la dame qui travaille au pet shop, là,
elle était curieuse de te voir.
Ben, je pense qu'elle est remplie d'empathie. Là. Je viens tout le temps chercher des mots divers de soi.
Je pense que je vous connais, vous.
Non, il est sur la blacklist de plus lui vendre d'animaux.
Elle me regarde rentrer dans la boutique. Des vers de soie. Des vers de soie.
Toi, t'as l'étiquette vers de soie.
Vers de soie. Wow. Pour mon gecko. Parce que je veux pas de grillons. Fait que des grillons, ça fait trop de bruit dans la maison.
Mais là, t'as-tu compris, mettons, la prochaine fois qu'il te demande ça contre un bon bulletin, un autre animal?
Mais c'est ça, l'histoire. C'est avec des affaires comme ça. Tu sais, comme là, j'en ai un qui a un petit peu plus de difficultés en français, puis là, je dis, regarde ce qu'on peut faire. Est-ce que tu aimerais obtenir quelque chose suite
à tes efforts?
À tes efforts en français. Puis là, ben, il m'a parlé d'un autre patente. Là,
étant?
Bon, ça, je le nommerai pas.
OK. Mais est-ce que c'est un animal vivant?
Non.
OK.
Fait que là, je dis, ben, ce serait possible, mais tu penses-tu que tu vas être capable de mettre l'effort? Il me fait la même affaire que pour son gecko ou encore pour son chien ou pour ses chats. T'sais. C'est tout le temps des promesses.
Mais il les remplit, ces promesses, si jamais il y a l'animal au bout de la... ou t'es un papa qui tient pas l'engagement qui plie.
Ils sont supposés s'occuper de leurs animaux. Finalement, c'est moi qui se ramasse avec ça. Mais je vous le dis, c'est un véritable zoo.
Ah, il voulait un petit frère ou une petite sœur.
La facture.
C'est ça qu'il voulait.
La facture pour nourrir tous ces animaux-là.
Je vais m'en occuper.
Je vous en parle pas. Je sais pas c'est quoi vos trucs pour leur dire non à vos enfants. Là, mais des fois, c'est facile. Des fois, c'est un petit peu plus difficile quand ils te font plein de promesses puis ils ont l'air de vraiment y croire à leur mensonge.
Le scénario qui m'a fait le plus rire dans la vie par rapport à des animaux de compagnie, c'est des enfants qui ont demandé justement un perroquet, mais ils attaquaient la mère de famille qui avait acheté, tellement agressif, méchant, puis c'était sanguinaire. Là. Les attaques étaient très féroces que c'était devenu genre dangereux pour la mère de famille qui avait acheté le perroquet pour faire plaisir à ses enfants.
Mais on a un collègue ici qui a une perruche. Là.
Oui.
Tu as-tu vu les doigts?
Non.
Tu y voles les doigts, il est attaqué à tous les jours par la perruche. Dès qu'il veut l'embarquer comme dans sa cage pour la nuit, ben il attaque les doigts.
Parce qu'il ne veut pas embarquer dans sa cage.
Ouais.
Puis j'ai aussi su que cette personne-là, dans l'entreprise, à un moment donné, a ouvert la cage le matin pendant que conjointe prenait le bain. Puis la dite perruche s'est mise à circuler et a fait exactement le même résultat qu'on a dans la fenêtre, mais dans le bain de conjoint. Wow. Il y a comme des chicanes à l'interne par rapport à cet animal de compagnie.
Ben, je comprends. Il y a une perruche.
Tu es en train de te détendre.
C'est pas de plus épais.
Quand on te sert une bombe de bain non espérée.
Non, mais tu sais, mettons que tu passes ta vie avec un chien qui te mord, là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en débarrasses, là?
Ben oui. Je passerai justement pas ma vie.
Une perruche qui te mord au sang, parce que dans son cas, il est plein de bière.
Ça sert à rien.
Ben non, ça sert à rien. Ça chante pour rien, ça gueule pour rien. Bref, on les aime, les perruches.
Vous mentionnez, on a eu une petite information dans les dernières minutes via le service d'incendie de la Ville de Québec. On est en deuxième alarme au 420 rue des Bouleaux Est. Il y a un début d'incendie dans un logement. L'évacuation qui est en cours, c'est les détails qu'on a pour l'instant, mais on va avoir plus de détails dans les prochaines minutes. On se tient au courant.
11h13, on s'en va en musique. Cage the Elephant avec Neon Pill sur les ondes de boulevard. Vous avez des choses à nous dire. 418-971-1021, on revient. It takes one to know. Malajube, radiologie sur les ondes de boulevard. C'est 6 degrés actuellement sur Québec. Deux alertes météo. La première, avertissement donc d'onde de tempête. Donc, ça doit brasser un peu sur le fleuve. Puis l'autre, ben c'est vraiment un petit bulletin météorologique spécial. C'est qu'il y aura des averses pendant plusieurs heures, ce qui fait en sorte que ça pourrait déborder à certains endroits. Maximum de 7 pour ce qui est d'aujourd'hui. Quelques averses qui devraient débuter dans votre secteur, si ce n'est déjà fait. Minimum de plus 4 pour cette nuit. Demain et jeudi, ce sera nuageux, 40 % de probabilité d'averse en matinée avec un maximum de 10. Vendredi, c'est de la pluie intermittente, maximum de 16. Et pour le week-end, de la pluie pour samedi, maximum de 12. Et dimanche, ce sera nuageux avec un maximum de 11 degrés. Pour nous joindre en studio, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Beau match du Canadien hier. Hey, pour ceux qui ont écouté la game et qui sont fans du Canadien, ben, vous avez été gâtés. Tom ne doit pas se souvenir de ça puisqu'il n'était pas présent.
Tu peux te surprendre.
Je me souviens... Ouais, non, je suis pas mal certain que tu n'étais pas au Colisée de Québec dans le temps.
Non, je sais.
Mais je me souviens des Nordiques. On avait de jeunes bons joueurs chez les Nordiques. Puis, il faut faire attention, je ne compare pas les joueurs exceptionnels qui étaient chez les Nordiques dans le temps à des joueurs du Canadien actuel. Mais il peut peut-être y avoir certaines comparaisons. Mais, tu sais, on avait un Peter Forsberg. On avait un Joe Sakic. On avait un Owen Nolan.
Matt Sundin est passé.
Matt Sundin qui était là aussi. Puis, on n'avait pas... on gagnait pas tous les matchs. On n'était pas nécessairement une équipe gagnante à Québec, mais on avait des joueurs qui avaient un talent fou, ce qui faisait en sorte que certains soirs, ça pétait des scores. Puis hier, ben, j'ai comme revu ça. T'sais, Slavkovski est un joueur exceptionnel. Je pense qu'on peut dire ça maintenant. Est-ce que ça va être ça pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans? Je ne sais pas, mais pour l'instant, il est en feu. Il a fait 3 buts hier contre les Paul Flyers qui avaient de la misère à se retrouver. Là.
C'était, c'était pas facile.
C'était épouvantable.
Mais pourtant, c'était une game décisive pour les Flyers. Je vous écoutais hier,
exactement.
Vous disiez ça, puis le Canadien a décidé que ça allait être décisif pour lui.
Ben, c'est une succession de défaites des Flyers. Donc, il était dû hier, finalement. Tortorella a dit qu'hier, ils ont atteint le bas-fond.
Ouais, c'est ce qu'il a dit.
Deux buts pour Gallagher. Dvorak aussi qui a marqué deux buts. C'était son retour au jeu. Trois passes pour Jordan Harris. 33 arrêts pour Samuel Montembeau. Mais c'est ça. J'avais comme des flashs des anciens Nordiques. Tu sais, il y a des gars dans l'équipe qui avaient énormément de talent. Puis malheureusement, ils n'étaient pas capables de gagner tous les matchs. Là. Tu sais, on en perdait plus qu'on en gagnait. Et je revoyais ça.
Ah, c'est le fun. Mais c'est cool de revenir. Hey, j'ai vécu ça dans le Colisée avec ces gars-là. Puis là, tu fais une comparaison. Tu compares pas, mais tu revois un peu ça avec le Canadien.
Il n'y a aucun Joe Sakic chez le Canadien de Montréal. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a aucun Peter Forsberg chez le Canadien de Montréal. Mais il y a des flamèches qu'il y avait hier que je trouvais beau. Puis je me souviens d'avoir vu ça chez les Nordiques de Québec dans leurs dernières années. Prochain match canadien, c'est demain 19h30 contre les Islanders.
Yes, contre les Islanders de Patrick Roy qui sont en ce moment en séries éliminatoires. Une énorme victoire pour la bande de Patrick Roy hier face aux Rangers. Donc, les deux dernières places dans l'Est qui sont disponibles sont maintenant aux Islanders et aux Capitals de Washington qui ont aussi remporté une énorme victoire face aux Red Wings de Détroit. L'équipe aussi, les Red Wings qui sont en course pour aller chercher une place en série. Ça va être serré jusqu'à la fin. Donc, les Islanders qui vont devoir gagner ce match-là pour consolider leur avance au classement pour aller passer en séries éliminatoires.
LHJMQ, victoire de 3-1 du Phoenix de Sherbrooke sur l'Armada de Blainville au match numéro 7.
Exact.
La deuxième ronde des séries qui commence vendredi. Puis, au baseball majeur, victoire de 5-3 des Blue Jays sur les Mariners de Seattle hier. En autre duel, les deux aujourd'hui, c'est à 15h07.
Et voilà.
OK, 11h23, on va faire une courte pause, on vient tout de suite.
Marceau le midi. La référence pour votre horoscope puis vos avis de décès. Voici Marceau, Pascal CV et Tom Gauthier.
11h28, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021. L'extrait que vous venez d'entendre, c'est peut-être un humoriste que vous connaissez si vous regardez un peu ce qui se passe dans le coin de l'Europe. Moi, c'était la première fois que je l'entendais en spectacle. J'ai vu quelques-uns de ses films et il nous fait le bonheur d'être présent en studio parce qu'il va avoir un spectacle à Québec le 9 octobre prochain au Capitole de Québec. Et il est avec nous. Son nom, c'est Philippe Lelouch. Il est comédien, metteur en scène, cinéaste. Bonjour, M. Lelouch. Comment allez-vous?
Bonjour. Je vais super bien. Je suis hyper content d'être là.
Est-ce que vous avez un bel accueil au Québec?
Oh là là, mais on ne peut pas rêver mieux. Et puis c'est formidable parce que, en fait, je ne sais pas à qui je m'adresse. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais des radios, des télés, ouais. Je vois plein de gens et je... Oh, c'est sympa! Mais je ne sais pas s'ils sont connus, pas connus.
Découverte.
Si, voilà. Ce sentiment d'être largué comme ça, il est très, très bon.
D'être mais... largué?
Ouais, oui, largué. Ah, largué. Alors voilà, le genre d'expression qu'ils disent, c'est
parce
d'être
perdu.
Parce
que nous autres, c'est vous mettre par dehors. On pourrait vous sortir
non,
par
alors,
la fenêtre.
Quand on est largué, ça veut dire on ne sait pas où on est. Nous, en France, c'est l'expression, okay. On est loin. Quoi. On
nous, largué, ouais. Sinon, c'est aussi laisser quelqu'un.
Ah, laisser quelqu'un. La rupture, je l'ai largué, ça veut dire je l'ai quitté.
Mais vous savez pas à qui vous adressez, mais mes collègues vous connaissent, puis il y a même quelqu'un qui était super fan dans nos collègues qui...
Thomas.
Ça fait 3 fois qu'il passe devant la fenêtre là, depuis que vous êtes en studio
c'est
avec
vrai,
nous.
C'est vrai,
mais je
vais
être honnête, moi je ne vous connaissais pas du tout.
Mais c'est normal, vous êtes trop jeune. En fait, si vous aviez été enfant... Ah si, alors vous auriez pu, parce qu'il y a une série... Vous avez des séries françaises ici qui passent?
Oui.
Il y a une série très populaire dans laquelle j'ai joué en France, ça s'appelle Clem. Qui était voilà bah, bon, donc c'est pas passé ici.
Non.
Et voilà, et je jouais une espèce de beau-père idéal extrêmement sympa avec les enfants, toujours amoureux de sa femme hystérique et tout ça, qui est toujours voilà et du coup ça m'a rendu très populaire chez les mamans et les jeunes filles.
OK.
Voilà, parce que comme mais sinon mais voilà, mais c'est bien d'arriver en territoire quasi inconnu, je dis quasi parce que j'ai tourné quelques films d'ailleurs ici. Mon premier film de cinéma, je l'ai tourné à la Malbaie, c'était Michel Vaillant. Ouais. Et y a une culture extrêmement commune, mais c'est, moi je suis absolument fan du Québec à tous les étages. Et j'arrive ici sur la pointe des pieds parce que en humoriste vous avez du lourd là. Waouh, c'est du solide là comme vous dites.
Qui pour vous est lourd?
Ah bah déjà celui qui me fait le bonheur de travailler avec moi, Jean-Michel Anctil. Oui. Et puis il y a Stéphane Rousseau. Enfin il y en a mille des humoristes. C'est-à-dire il y a la narration est une tradition chez vous, même le stand-up, parce que vous avez eu la chance d'avoir cette influence américaine. Nous, le stand-up, c'est vraiment assez récent en France. Ça a une dizaine d'années que les comedy clubs s'installent, etc. Oh. Parce qu'avant, c'était l'humoriste en France, c'était un mec qui faisait des sketchs. Il prenait un personnage, il faisait un sketch, il faisait le noir dans la salle, il revenait avec un autre personnage, etc. Le stand-up, c'est-à-dire l'humoriste qui s'adresse aux gens pendant 1h30 en face à face, ça, c'est très récent, en fait.
Mais vous ne vouliez pas être comédien, vous ne vouliez pas être metteur en scène. Vous avez commencé, vous étiez journaliste,
ouais.
Vous avez une formation en journalisme.
Ouais. Oui, j'étais même grand reporter, mais c'est ce qui était... Si, en fait, j'ai toujours voulu être comédien, mais ça me paraissait extrêmement compliqué, parce que les premiers cours de théâtre que j'ai pris, moi... On m'apprenait à faire le fœtus, l'arbre et tout ça. Je me disais, oh, je vois pas comment je vais passer au cinéma. Tu vois, j'arrivais pas à comprendre le trajet en me disant ça va être compliqué. Donc j'avais repris des études de journalisme. Et puis j'ai un frère qui fait ce métier-là aussi, qui est comédien en France. Et puis finalement, quand lui a commencé à le faire vraiment sérieusement, j'ai commencé à comprendre. Et puis là, j'ai raccroché les wagons. Quoi.
Pourquoi Philippe Lelouch s'intéresse au Québec? Pourquoi vous décidez de venir faire des spectacles ici?
Parce que je pense que c'est vous les patrons. Je le pense sérieusement. Je pense que dans la francophonie, c'est vous les patrons du stand-up. Et que d'abord, j'aime bien les Québécois, vraiment, pour mille raisons.
Mais vous foutez la paix, d'abord et avant tout, parce que vos fans de l'autre côté, outre-mer, là, il paraît que c'est assez intense, merci. Là, vous avez encore vos vêtements, je suis heureuse de le voir.
Ouais,
je vois votre attaché de presse qui hoche la tête. Oui, c'est plus agressif.
Non, mais parce que j'aime... En fait, j'aime l'excitation, c'est vraiment bien d'aller à la conquête, surtout de gens qu'on respecte. Voilà, moi, j'ai toujours aimé ça. Voilà, j'ai toujours... Il y a des cinémas... Moi, j'ai pris des tartes hein, avec vous. Le premier, c'est le déclin de l'Empire américain. Denis Arcand, moi, c'est... Waouh, il y a plus de 20 ans que j'avais vu ça. Je me suis dit, c'est quoi cette écriture là? C'est quoi ce génie? Ouais, et puis après, il y a eu La Grande Séduction, Starbucks, tout ça. Scott, là, il plaisante pas. Hein.
Ouais.
C'est des sacrés metteurs en scène, c'est des sacrés scénaristes. Et je me suis dit, waouh, c'est... C'est, moi, j'ai envie d'aller là-bas, moi. J'ai envie de travailler avec eux, quoi.
Est-ce que vous vous êtes informé sur la façon de faire de l'humour au Québec? Parce que, bon, moi, j'aime beaucoup d'humoristes français. On oublie le nom, là, mais quelqu'un que j'ai découvert sur les réseaux sociaux dernièrement, sur TikTok, s'appelle Paul.
Ah, Paul Mirabel.
Paul Mirabel, ouais. qui me fait bien rire. J'aime beaucoup l'humour à la française, mais les Québécois ne sont pas nécessairement toujours portés à regarder ce que c'est que l'humour français puis s'intéresser à ça. Et à l'inverse, quand on reçoit des humoristes français ici, il y en a certains qu'on adore, mais c'est des humoristes qui s'adaptent. Est-ce que vous avez dû vous adapter aux blagues d'ici versus
alors
peut-être...
Non, pas dans au sens littéral du terme. Moi, j'ai demandé à Jean-Michel Anctil, qui est mon parrain, qui m'aide à adapter, c'est surtout les expressions. Par exemple, quand je dis tout à l'heure « larguer », voilà, on dit ça dans un spectacle, là, le temps que la personne qui vous écoute vous dit « qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» Voilà, ouais. Il est passé à côté du gag, etc. Ça, c'est évidemment ce que je veux éviter. Donc, sur ce point-là, Jean-Michel m'apporte beaucoup. Et c'est surtout... Je crois que c'est adapter, c'est vraiment... C'est pas retransformer le spectacle. Et moi, je pense que ma narration française, elle est compréhensible, je l'espère.
Ouais.
Donc, faut pas essayer de changer, parce que là, on perdrait... En fait, je ne viens pas à la conquête, moi, je viens essayer de séduire, ce n'est pas du tout la même chose.
Puis on aime l'unicité ici, Yannick, mettons, qu'on parle d'humour et autres, on aime ça quand les gens se développent en tant... Oui, ouais. Se démarquent, mais se développent en tant qu'eux aussi. Là. On n'aime pas trop le personnage de scène, oui, mais on n'aime pas trop quelqu'un qui se prend pour un autre, là. On n'est pas comme ça. Jean-Michel Anctil vous a choisi ou vous avez choisi?
Non, alors, c'est un peu plus complexe que ça. Moi, je connaissais son spectacle. Je connaissais son travail parce qu'en France, j'avais suivi largement ce qu'il faisait, mais on ne se connaissait pas. Et c'est grâce à Nariman Doumanji, là, qui est ma manageuse ici, qui nous regarde, qui nous observe. Faut se méfier. C'est une astite folle. et donc, c'est elle qui a eu cette idée géniale. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux que... Je lui ai dit, ah, bah, ce serait merveilleux. Bon, et elle lui a montré mon travail. Et par chance, il a ri, il a aimé. Et il m'a dit, OK. Et là, on s'est rendu compte, bah, d'abord, qu'on est de la même tranche d'âge. Et qu'on avait un univers extrêmement commun. On a même appelé une de nos enfants de la même façon. Vous voyez, c'est marrant. Donc, on a les trucs. Voilà, donc ça, on s'est bien capté. Voilà, après, il m'aide à me dire, bon, bah, ça passera pas. Par exemple, j'utilise une expression quand je parle de mon père en voiture qui se retournait avec mon frère pour nous tarter. Ça, il m'a dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que pour nous, une tarte, ça n'a pas du tout la même signification. Donc, tarter, c'est mettre des gifles.
Okay. Voilà.
Donc, vous voyez, c'est des trucs comme ça où il me dit, bah, ça, il faut que tu le corriges.
Donc,
parce
il y a un petit peu d'adaptation.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, bon, voilà.
Parce que je trouvais que ça ne dérangeait pas de tout cochonner le char, là.
Ouais.
Cochonner le char.
Au niveau de l'ouverture des blagues, est-ce que les Français sont plus ouverts aux blagues? Est-ce qu'ils sont... est-ce qu'ils vous restreignent par rapport aux blagues que vous pouvez faire? Parfois, moi, des discours qui peuvent dire « Oh, ben, monsieur Lelouch, Philippe Lelouch est allé peut-être un peu trop loin de ce côté-là versus au Québec où c'est très, très, très ouvert. »
Ben oui, moi, je pense que c'est ouvert aussi. Enfin, on n'a qu'une obligation, en fait. Moi, je pense qu'il n'y a absolument aucune limite.
Ouais.
J'avais un prof de philo il y a très longtemps qui me disait « Il n'y a de limite que pour les esprits limités. » J'aime bien cette phrase-là.
Wow.
Et il m'a dit « Mais en fait, on n'a qu'une obligation, c'est d'être drôle. » C'est-à-dire qu'il y a, en autre référence, vous avez trouvé que je fais mon Lucchini, là, mon Fabrice Lucchini à faire des citations, mais il y avait Molière qui disait « Toute morale directe est à prescrire au théâtre ». Et il a parfaitement raison. Moi, un mec qui veut essayer de me faire rire, mais qui me fait la morale, ça m'insupporte. Si je ne suis pas d'accord avec lui, mais que je le trouve drôle, c'est bon ça, même si je ne suis pas d'accord. Donc, l'idée, c'est le seul devoir qu'on a, c'est d'être drôle. Mais pousser les limites, je crois que c'est le principe d'un humoriste, c'est d'aller un petit peu choquer, sinon à quoi ça sert? C'est exultant. Enfin, moi, j'adore dire « Oh putain, il a été là, je suis dans le public, le mec, il fait une match, oh la vache, il est gonflé. » Mais si c'est drôle, bravo, j'applaudis. S'il me fait la morale, il m'emmerde.
Mais est-ce que c'est une crainte, ça, chez les humoristes, les...
Oui, je crois
en
qu'en
France
ce moment...
et au Québec?
Oui, je pense que c'est une crainte. Il y a des sujets sur comment... Si on commence à faire des vannes sur le ramasse ou sur les féministes, on sait qu'on va sur un terrain un peu compliqué.
Ouais.
Alors, on a qu'un intérêt, c'est d'être drôle. Voilà, après la prise de risque, elle fait partie de ce métier. Moi, je pense que d'être artiste, c'est prendre des risques. Alors,
mais voilà, quand
prendre...
on dit un Philippe Lelouch, à cet endroit-là, il ne faudrait pas y aller.
Ouais,
vous,
bah, c'est là que j'ai envie d'y aller.
Bah oui,
c'est évidemment, il y a une part de provoque qui est nécessaire, ouais.
Ouais.
Mais il faut être drôle, voilà.
Les films que vous avez faits, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en production présentement?
Je suis en train de tourner une série pour TF1 qui s'appelle RIP, comme Rest in Peace. C'est avec une comédienne française formidable qui s'appelle Claudia Tagbo, qui, en fait, c'est elle qui hérite d'une société, qui n'arrive à rien dans sa vie, genre de loser, la grandiose, et qui hérite d'une boîte de pompes funèbres, mais elle n'a absolument aucune idée de comment ça fonctionne. Et comme elle n'a pas beaucoup de ronds, elle engage que des bras cassés, comme moi. Et donc, c'est assez drôle. C'est en fait des pompes funèbres tenues par des gens qui ne comprennent pas comment ça marche. Donc, en tout cas, on a tourné deux épisodes. On en tourne quatre autres au printemps, là. Et je m'amuse bien. Et moi, j'ai envie de faire des films après, comme réalisateur plutôt, puisque comme acteur, je m'ennuie beaucoup au cinéma.
Qu'est-ce qui vous ennuie en tant qu'acteur?
D'attendre, je ne suis pas patient.
D'attendre entre les scènes.
Oh là, ça me saoule. Voilà, on attend beaucoup au cinéma. Jean Gabin, acteur français très connu, disait « Le cinéma, c'est de trouver une bonne chaise ». C'est vraiment ça. C'est-à-dire que réaliser, on ne s'ennuie jamais. On raconte son histoire, on dirige les acteurs, on passe d'une scène à une autre. Mais acteur, la vache, des fois. Donc, j'adore en faire. Hein. Je ne suis pas en train de cracher dans la soupe. Mais je peux m'ennuyer. Et plus le temps passe, et plus je vieillis, et moins je suis patient. Voilà, donc j'ai des projets d'en faire comme réalisateur, mais là je suis tellement dans le one man show que j'ai envie que ça continue.
Est-ce que le stress est le même quand on est acteur ou réalisateur, ou c'est plus stressant peut-être être réalisateur?
Oh, je crois que c'est plus stressant d'être réalisateur.
Ouais.
Parce que le tournage n'est qu'une étape. Après, il y a le montage, il y a le mixage, et puis il y a l'accueil. Et puis c'est encore une fois 2 ans de travail souvent entre l'élaboration du scénario, le tournage et la sortie du film. Pour un résultat qui, dès le premier mercredi de la sortie, peut être effondrant. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, ça ne marche pas. Voilà. Allez, merci, au revoir. 2 ans de ta vie en une journée. Et quand ça marche, c'est génial, mais c'est fait.
Voilà, on pardonne moins un réalisateur qu'un acteur, par exemple, qui fait partie d'un projet qui était mauvais au final.
Il ne faut pas qu'il les enchaîne, hein, quand même, parce que le mec, quand il commence à enchaîner 3 ou 4 fours, comme on dit chez nous, c'est pas bon pour sa carrière. Mais,
ouais, faut,
mais
c'est vrai qu'on autre chose, hein,
on lui pardonne moins, mais en tout cas, il n'y a pas... Voilà, le cinéma, on a joué, au théâtre, on joue. Voilà, et moi, ce que j'aime bien, c'est cette proximité et du sans-filet, et encore plus dans l'humour. Ouais. C'est terrible, hein, quand on sort une vanne et que personne rit. Dieu merci, ça ne m'arrive pas souvent, mais j'imagine que ça doit être épouvantable.
Mais hein. Vous avez une période de rodage?
Ouais. Alors ça, je l'ai fait, ça aussi. Ça n'existe que dans le stand-up, ça. C'est-à-dire qu'on va dans des petites salles où les gens payent un ticket très modéré pour vous écouter répéter. C'est quand même complètement dingue. Nous, au théâtre, on répète pendant 1 mois, 2 mois, dans une salle fermée avec les acteurs. Puis hop, un jour, on délivre. Là, non. Quand j'avais fini d'écrire, je pars avec mes fiches et je vais sur scène. J'étais sûr, on fait comme ça. Tout le monde m'a dit, ouais, fais comme ça. Et je me disais, les gens, ils sont gentils, quand même. Ils viennent voir un truc. Donc je lisais mes fiches, puis je regardais s'ils riaient, s'ils riaient pas. Et c'est vrai que très vite... Très vite, très vite. Alors,
vous apprenez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Ouais.
Parfait. Le 9 octobre prochain, Philippe Lelouch sera au Capitole de Québec. Est-ce que vous allez certainement nous parler un peu de nostalgie? Vous avez vu plusieurs générations passer.
Merci d'insister là-dessus.
Vous vous souvenez de votre passé. Moi, je vous rejoins quand vous parlez de slow, l'abolition des slows. Tom n'aura pas connu les slows dans les bars.
C'est parce que tu as perdu, Tom. Je sais pas. Tu vois, et là, je m'amuse, tu vois. Je m'amuse justement en parlant des slow, parce que c'était une façon de tomber amoureux en 3 minutes, ce qui était quand même un peu plus excitant que d'être sur Twitter avec des filtres, hein, tu vois, ou sur Instagram ou machin.
Philippe Lelouch, il crouse sur Twitter?
Oui, alors non, Twitter, c'est quand même le réseau. De... Non, mais Twitter, c'est vraiment le réseau de merde, quoi. Hein. Ouais. C'est vraiment le réseau c'est tous les gens qui, derrière des pseudos, c'est le réseau des lâches.
Ouais.
Il y a un truc, et Twitter, c'est vraiment pas drôle. Instagram, ça, j'y ai pris goût, okay. C'est marrant. Mais Twitter, c'est un peu la lie de l'humanité, moi, je trouve. Voilà, il y a un truc un peu, tout le monde s'insulte et tout, on dit waouh.
Donc, c'est pas une place pour rencontrer. Non. C'était les slows dans le temps.
Non. Et alors que les slows, il fallait se déplacer. Et puis, je dis pour rire sur scène que en fait, si j'étais une féministe convaincue, je rendrais le slow obligatoire, moi, parce que, en fait, on a conscience aujourd'hui qu'il y a des hommes, visiblement, qui ont un problème avec le mot non. Ils savent pas ce que ça veut dire non. Bah, le mec qui a connu les slow, lui, il sait ce que ça veut dire non. Dès le plus jeune âge, quand il a invité une fille.
Ça joue sur l'estime. Mais vous aviez quand même le rôle ingrat de devoir inviter. C'était toujours sur vos épaules.
Bien sûr. Mais c'est le rôle de l'homme. Ça disait toujours l'homme propose, la femme dispose.
Et moi, c'est un filon que j'aurais aimé aller avec vous, puis on aura le temps.
Mais vas-y.
Dans l'humour, parce que vous avez un humour qui est beaucoup plus. Comment dire? Abrasif envers les femmes pour plusieurs Français. Ça fait partie de la culture, on en jase toujours.
Non, je ne suis pas abrasif du tout.
Mais est-ce que vous voyez un peu la différence entre...
Un homme et une femme?
Ben, ça, j'ose croire, mais le public français puis le public québécois là-dessus.
Non, je crois
que... Parce que vous avez dit, puis tu sais, on va le dire, quand vous avez dit, c'est une crise de folle.
Ouais.
Nariman qui est ici, c'est une inside joke entre vous.
Ouais.
Mais il y a des auditeurs qui disent, ben voyons donc. T'sais, déjà, t'sais, ben, pourquoi il dit ça d'une femme qui l'aide puis qui travaille avec?
Mais si je dis c'est un crise de fou, est-ce que c'est moins choquant?
Mais surtout sur mon animateur, il n'y a pas de problème.
Non. Mais si je le dis sur un homme, est-ce que c'est moins choquant?
Non.
Eh ben alors, donc c'est vous qui êtes moins dans l'égalité que
donc
moi.
Donc, vous ne voyez pas, dans le fond, la différence entre les deux publics?
Ben non, mais je ne vois pas la différence, surtout entre un homme et une femme. Mm. Je la vois physiquement, je la vois à d'autres niveaux, mais je pense qu'on doit traiter les femmes comme on traite les hommes, avec une équité parfaite. Je fais partie de cette génération où je me dis qu'on doit être un peu plus doux avec les femmes. Voilà, mais ça peut être pris pour du machisme, mais moi, je considère qu'il y a une fragilité féminine que j'aime à considérer. Et que,
dans la sensibilité.
Dans la sensibilité, dans plein de choses, dans la force physique, etc. etc. Mais je pense que dans le traitement de l'humour, on peut dire à une femme qu'elle est moche comme on peut dire à un mec qu'elle est moche, qu'un mec qu'il est moche, on peut dire qu'elle est conne comme on peut dire à un mec qu'il est con. Ben, je vois pas où est le...
C'est l'humanité avec un H majuscule.
Oui, bien sûr. Mmh. Là, parce que là, sinon, la différence, elle est dangereuse. Voilà. Alors que moi, je suis pour que les gens s'aiment beaucoup.
Est-ce que la vie était beaucoup plus facile avant?
Oui, ah ben alors ça, incontestablement, oui. Non, mais c'est-à-dire que... Alors là, même toi, hein, t'es plus jeune, je le sais bien, mais moi, j'ai grandi à la fin des années 70-80. Il faut comprendre un truc, c'est que tout était autorisé. La liberté était totale. Et là,
sous quel pan? L'expression?
Je vais t'expliquer. Non, d'expression. Alors, ça, certainement, on voyait les gens... Par exemple, des humoristes, je vais t'en prendre deux qui étaient extrêmement connus en France, qui s'appelaient Coluche, qui était la star, et Thierry Leluron, qui était l'imitateur star. Bon, c'était des gens extrêmement connus en France. L'un était de gauche, l'autre était de droite. Clairement, ils ont fait semblant de se marier sur les Champs-Élysées. Ils étaient extrêmement copains, etc. C'est-à-dire que rien... chacun avait ses idées, on les respectait. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu appartiens à un camp ou à un autre. Déjà, si tu appartiens à ce camp-là, alors ce que tu vas dire, c'est dangereux. Bon, bref, c'est un truc qui très difficile. Mais même dans l'attitude. Nous, quand on était mômes, ce qu'on appelait un réactionnaire, vous avez ça au Québec? Vous comprenez cette expression-là? Ouais. Un réac, c'était quelqu'un qui voulait plus d'ordre et de sécurité. En général, c'était un vieux chiant. Il disait, il faudrait plus de police, il faudrait plus de... Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on nous, qui sommes dits des réacs, c'est parce qu'on veut plus de liberté. Mais pourquoi? Genre, je vais vous la raconter en deux minutes, ma jeunesse, mais quelle est la jeunesse de tout le monde. Par exemple, nous, on avait le droit de fumer partout dans les endroits publics. Alors, on nous a dit un jour, c'est interdit. Bah oui, on l'a accepté, l'interdiction. On sait que c'est mauvais, que ça peut faire du mal à la santé des autres. Ok, on accepte. La moto, on l'en faisait sans casque. On dit, maintenant, il faut mettre un casque. Si vous tombez, vous risquez moins de vous tuer. Ok, on accepte le casque obligatoire. La ceinture de sécurité en voiture, il faut la mettre parce que sinon, c'est dangereux. Ok, on la met. Faut rouler moins vite parce que la vitesse, c'est dangereux. Bah, ok, on va tous rouler moins vite. Mais à force de rogner sur toutes ces petites libertés avec un bon fond, avec un bon principe, on a eu le sentiment, et on a encore le sentiment aujourd'hui, qu'on a renié la grande.
Dans votre génération, voilà. Majoritairement.
C'est-à-dire qu'on se dit, waouh, on n'a plus le droit de rien faire, ce qui est totalement faux. On a encore le droit, qu'on aille voir dans les vraies dictatures. Mm-hmm. Là, on voit, aujourd'hui, on a le droit encore de faire plein de choses, mais on a ce sentiment qu'on n'a plus le droit de rien faire, parce que nous, on avait le droit de tout faire.
Et non balancer, ça peut créer des frustrations.
Voilà.
Ça, c'est ça. Yannick, tu te rappelles une des premières chroniques que j'ai fait avec toi, puis je t'avais amené des extraits de plateaux français à la télé. Moi, ça, c'est mes plus beaux moments, là, c'est ce qu'on vient de vivre, en fait. Dans l'argumentaire, dans la réflexion, c'est ce qu'on vient de s'offrir, en fait, à l'émission avec un Français.
C'est gentil, ça. Ben,
non, mais vous avez une liberté d'expression, vous avez une philosophie de débat qui est fort plus intéressante que la nôtre. Vous avez ce droit-là, vous le donnez. Quand vous êtes en désaccord, là, ton monde, c'est un peu plus agressif. Et des fois, il faut calmer les tensions, mais vous vous dites les vraies choses et après, vous vous tapez dans la main. Puis après ça, ben, le calme revient, puis on passe à autre chose, puis vous êtes même ouvert à avoir peut-être des argumentaires qui ne sont pas nécessairement dans votre sens.
Mais vous avez raison. Mais moi, j'adore écouter des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Si on n'écoute que des gens qui sont d'accord avec vous, c'est chiant.
Mais c'est l'intelligence.
Voilà. Donc, d'écouter des gens en disant « Ah, ça, quand même, c'est un bon argument, etc. » Donc, je pense que cet effort-là intellectuel, il est nécessaire de discuter, de parler, d'argumenter. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment, et là, je pense que c'est la même chose au Québec, mais c'est pareil en France et dans tout le reste de l'Europe et voire du monde, on est ancré dans des certitudes et on se met à ne fréquenter que des gens qui ont les mêmes certitudes que vous et ça empêche d'avancer. Et on arrive surtout à une limite à la liberté d'expression.
Ouais.
Si un mec ose dire un truc à la radio, par exemple, comme moi aujourd'hui, je vous assure qu'en tant qu'artiste aujourd'hui, quand on va à la radio, on surveille tout ce qu'on dit.
On n'a pas le choix.
Parce que s'il suffit qu'on sorte un bout de phrase, et là, alors là, pour se sortir de ça, et après c'est sur Wikipédia, et
c'est
après
parti.
C'est truc. Et c'est parti.
Ah ouais.
Et tu dis, non, j'ai pas dit ça. Tu vois, j'ai pas dit comme ça. Voilà, donc il faut revenir. Moi, je pense qu'il y a eu plein de choses nécessaires là. Il fallait aller dans les extrêmes parce qu'il y avait des choses nécessaires à changer. Il faut toujours aller au bout du truc. Je vais prendre le féminisme, par exemple. Il faut aller très loin, trop loin, pour obtenir un juste milieu. Ça, c'est le problème de toutes les luttes. Pour faire des révolutions, il faut aller un peu trop à l'extrême pour revenir à un juste milieu. Mais il y a des moments, j'ai vu des gens se partir dans les trucs. Mais non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a juste émis un doute. Bon, Voilà, il faut pouvoir discuter, il faut rencontrer, il faut dire « Attends, tu te trompes, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, etc. etc. » Par exemple, moi, un truc où là, je suis définitivement français, sur la galanterie. La galanterie, quand j'entends aujourd'hui des féministes, par exemple, dire « Faut plus être galant », je dis « On est sérieux, là ?» Il n'y a rien de plus magnifique que d'appeler une jeune femme mademoiselle, que de lui ouvrir la portière avant de monter en voiture, que de payer le restaurant, ouais. que de machin. Mais, on dit « Ouais, non, faut plus bah, !» Pourquoi ?
Mais M. Lelouch, en tout respect, là, quand j'entends parler ces féministes-là, c'est souvent dans les médias, mais quand j'entends de vraies femmes féministes autour de moi, la galanterie, ils sont pour ça.
Ben,
mais
dans les médias, d'accord.
Dans mais les on médias, sent parfois mal d'être même pour ça. Ben, je veux dire, moi, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un dans ma vie qui va s'occuper de moi comme étant un pourvoyeur, comme étant quelqu'un, mon sauveur. Mais tu le sais à quel point c'est important, la galanterie dans ma vie. Puis des fois, on sent mal parce que finalement, est-ce qu'on nuit à la cause des femmes parce qu'on trouve ça charmant ou
c'est
magnifique. Attirant?
Ça, c'est magnifique comme réflexion. Je vous trouve, c'est brillant ce que vous venez de dire. Ben non. C'est pas comme on se sentirait mal à l'aise si, par exemple, on rentre un soir très fatigué du bureau et que votre femme, pour vous faire plaisir, vous a fait à manger. Est-ce qu'on se dit on nuit à la cause de la femme ou c'est juste un geste de couple?
Puis on est capable d'être galante, nous aussi, envers vous.
Voilà. Donc, en fait, c'est toujours, moi, je dis toujours que c'est l'intelligence qui fait la différence. Par exemple, on a le droit, on peut encore continuer à parler là,
bien sûr,
on est trop
bien
long. Je vais vous donner un exemple qui est magnifique. On a appris, nous, dans notre génération, moi qui suis plus vieux que vous, on nous apprenait que la fille devait jamais dire, quand on faisait la cour à une femme ou à une jeune femme, elle devait jamais dire oui le premier soir. Parce que sinon, ça voulait dire qu'elle était une fille facile, etc. Donc, ça voulait dire que nous, on nous apprenait à faire la cour, à revenir à la charge, à dire « Ok, je te raccompagne chez toi, elle ne me dit pas de monter, le lendemain d'appeler, quand est-ce que tu es libre à nouveau pour dîner, etc. »
Il n'y avait pas le sang, oui, c'est non.
À quel moment ça devient du harcèlement,
ouais,
faire la cour,
ouais.
Voilà. Et c'est toujours l'intelligence qui va faire la différence. Le lourd, il sera toujours lourd. Un crétin va toujours être un crétin, comme un con sera toujours un con. C'est malheureux, Brassens l'a chanté il y a des années. Donc, il faut apprendre à ses enfants à la différence. Mais je ne sais même pas si ça s'apprend. C'est-à-dire qu'un mec comme moi, qui a une maman, qui a des filles, qui a une femme, il paraît évident le comportement adopté avec une femme. Il est évident. Ben, y en a pour qui ce n'est pas évident. Bon, ben, ces mecs-là, il faut les dresser. Mais c'est de là à prendre tous les hommes aujourd'hui pour des prédateurs. Par exemple, traiter un mec de boomer, c'est extrêmement insultant parce qu'il a un certain âge. Nous, on est des baby-boomers. Moi, je fais partie de la génération des baby-boomers. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette expression boomer? Le mec, c'est encore une fois, c'est ranger les gens dans des cases.
Mais est-ce qu'elle a été exploitée avec un certain stéréotype au fil du temps?
C'est ça.
Ça reste juste une description de génération.
De génération. Mais il y a des boomers qui ont fait avancer le monde merveilleusement.
Ben, dans chaque génération, il y a des gens qui ont nui, il y a des gens qui ont
oui.
Donc, c'est ça, exactement, on est bien d'accord.
Donc, Philippe Lelouch, dans son spectacle que vous allez donner le 9 octobre prochain, bon, vous parlez de vos souvenirs d'enfance. Ouais. Vous faites beaucoup d'autodérision aussi. Est-ce que vous êtes un homme avec certaines névroses?
Bon, j'en ai mille, évidemment. Ouais. Évidemment, la première, c'était la peur de ne pas être aimé, hein, je pense. Moi, je pense que ce métier-là, on le fait parce qu'il y a un besoin surdimensionné d'être aimé, d'amour, etc. Je pense. Faire rire, pour moi, c'est l'aristocratie de l'élégance.
Est-ce que c'est un besoin qui peut être assouvi, ça? Avoir constamment besoin d'amour?
Non, ça ne l'est jamais.
C'est triste?
Oui, probablement. Mais c'est un moteur.
Parce que vous vivez dans les yeux des gens plutôt que de vivre votre propre vie?
C'est un peu plus complexe que ça. C'est, on a besoin insatiable de se sentir aimé, ce qui est totalement illusoire, parce qu'on peut être, on peut pas être aimé de tout le monde, ça on apprend vite à le savoir. Avec l'âge, il y a même une petite délectation à être détesté de certains, parce que souvent, tu sais, moi j'ai dit toujours la meilleure façon de ça. Tu sais, des fois on se dit, je sais pas ce qu'il pense de moi. Quand quelqu'un me dit ça, je dis, demande-toi ce que toi tu penses de lui et tu auras la réponse. C'est très facile, hein, en général. La sympathie et l'antipathie, c'est le cri des gènes. Hein. Donc,
vous pensez que c'est toujours en double sens?
Ouais, je crois.
Le fait de ne pas s'apprécier?
Ouais, je crois.
Oh. Oui, les idiots qui s'en rendent pas compte aussi, mais...
Oui, c'est ça. On sent, c'est une histoire d'onde. Il y a un truc... comme vous savez, des fois, vous rentrez sur scène, tu te dis, ce soir, ça va être difficile. Tu vois, mais parce que tu sens que les gens... Bah, parce que je sais pas, parce que c'est comme ça. Il y a des flux et il y a des gens qu'on rencontre. Moi, je crois au coup de foudre amoureux. On rencontre une femme, elle rencontre un homme, bam, il se passe un truc... C'est indescriptible. Voilà, c'est comme ça. Et l'amitié, c'est pareil. Je crois que c'est le cri des gènes, moi, la sympathie et l'antipathie. Il y a un truc presque... Mais ce qui est joli, d'ailleurs, ce qu'il ne faut pas chercher à comprendre plus que ça.
Êtes-vous toujours heureux en France?
C'est pas la France, c'est l'époque. Voilà, je trouve que c'est... Voilà, en supprimant le slow, pour revenir à des choses plus légères, on a supprimé ce rapprochement possible. Je pense que les gens ont de plus en plus de mal à se rapprocher et à s'accepter. Et moi, alors c'est pour ça que je crois que je fais rire. Il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans.
De collectif.
Ouais, c'est le seul rassembleur que je connaisse. Mm. Quand tout le monde rit au même truc, il y a un truc qui se passe. Quoi,
tant que ça, vous avez senti l'individualité prendre beaucoup de place à ce point-là dans votre société en France? Oui,
je trouve. Je trouve que les gens se tolèrent de moins en moins. Enfin,
pourtant, vous habitez très près les uns des autres. Il y a vraiment quelque chose de différent par rapport au Québec. Vous n'avez pas les grandes cours, les grands espaces que nous, on a.
Alors ça, vous venez de me rappeler un truc. C'est un Québécois. Alors là, il faut que je vous dise cette phrase parce qu'elle m'a marqué, mais définitivement. Je tourne Michel Vaillant ici, à la Malbaie, il y a plus de 20 ans. Et on nous dit un jour, venez, on va faire... Nous, on voulait tous le week-end aller faire, évidemment, de la motoneige.
Ah, ben oui, ça c'est les fameux touristes. Hein. Ben on va aller voir Montréal, Sept-Îles, puis après Tadoussac en 3 jours.
Nous, c'est génial, le motoneige. Ouais. Et là, on nous dit non, les assurances, on a besoin de vous sur le film, si vous arrive un accident. Donc les assurances refusent. Et là, ils nous proposent ce truc surréaliste, c'est faire du traîneau. Pas mieux. Hein. ça fonce, ça peut être bon. Oui. Et là, je me retrouve, je vous mets dans le contexte, vous allez voir le rapport avec ce que vous venez de me dire. Et je me retrouve en plein milieu de la Malbaie, chez un type super beau gosse, avec une femme magnifique, 3 ou 4 enfants sublimes. Et je me dis, il n'a pas du tout le profil du mec qui élève des chiens de traîneau, quoi. Tu vois, moi, j'imagine un gros
barbu.
Ah non,
vous attendiez avec le casse de poêle. Parce que Ricardo a fait de mauvaise presse, là. C'est notre trappeur-chasseur de votre bord.
On voit un type comme ça. Tu vois, j'imaginais le mec qui vit tout seul. Bon, et le mec, beau gosse, bien habillé, etc. Et au bout d'un moment, je lui dis, qu'à l'époque, devait avoir 35 ou 40 ans. Et je lui dis, mec, c'est marrant, j'imaginais pas du tout comme ça. Et je lui dis, mais t'as toujours fait ça? Il me dit, pas du tout, je vais pas faire l'accent québécois, j'aurais peur d'en vexer. Il me dit, pas du tout, j'étais trader. Je lui dis, trader? Il dit, ouais, à Montréal. Je lui dis, t'es passé de trader à Montréal à éleveur de chiens de traîneau au fin fond de la Malbaie.
Un gros poste en finance, là, pour ceux qui...
Ouais, un gros poste en finance. Et je lui dis, mais pourquoi? Il dit, parce qu'à Montréal, il y avait trop de monde. Et il me fait cette phrase géniale. Il dit, les hommes, c'est comme les pommes, plus tu les entasses, puis plus elles pourrissent.
Oh!
Wow. Magnifique, non?
Ouais.
Et ça, il m'a dit ça.
Et vous revenez
il y a
avec la France là-dedans.
Et tu vois? Et je reviens. Et aujourd'hui, tu me donnes la possibilité de sortir cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Et je trouve qu'il a raison. Voilà.
Stand Alone, c'est le nom de votre spectacle, Philippe Lelouch. Les billets sont en vente à partir de demain 10h sur gestev.com. Ça a été un plaisir de vous
partager.
Rencontrer.
Merci.
Je vous souhaite une belle première au Capitole de Québec le 9 octobre prochain. Puis quand vous serez de passage à Québec, vous êtes invité en studio. Quand vous voulez, vous êtes bien sympathique.
Et vous venez me voir, hein?
Absolument.
Ça me fera trop plaisir.
Excellent. Hein?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Philippe Lelouch, l'humoriste Stand Alone, qui sera présenté le 9 octobre prochain au Capitole de Québec.
Marceau le midi.
Midi 36 minutes, Stéphane Lachance qui va rencontrer Patrick Paquet dans les prochaines heures. Si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain. On se prépare à la course à la mairie de la ville de Québec.
Oui.
On se prépare d'avance. Sa maman ne s'est toujours pas
manifestée.
Pour certains, moi, je suis un fan de sa maman. Il y a des gens qui disent mais là, tu te fies trop sur ce qu'il avait fait dans le passé. C'est pas grave. Je trouve que ce serait un bon défenseur de la ville de Québec. Puis on en manque de ce type de défenseur-là. Puis de plus en plus, on s'aperçoit que les décisions sont revenues comme elles étaient avant. C'est-à-dire qu'elles sont prises de Montréal pour Québec. Et ça, c'est totalement inacceptable. Il n'y a que les gens de Québec qui savent ce qu'il y a de bon pour Québec. Les gens de Montréal peuvent décider de ce qui se passe sur leur île. On a le droit de décider de ce qui se passe dans notre belle région.
Et oui.
C'est pas vrai que les autres vont décider pour nous autres. Donc, Sam Ahmad va peut-être se lancer ou pas. Moi, je vous ai dit qu'elle allait se lancer. Je l'ai rencontré ici dans nos studios. Il y a de ça peut-être un mois et demi à peu près.
Ouais, puis il était passé dans Gravel dans le retour.
Oui. Ah voilà, c'est ça. Il venait avec Gravel. Je l'avais rencontré dans un corridor. Un de mes patrons était là pendant notre discussion. Puis M. Ahmad est un peu fâché qu'on ait collé la chatte.
Ouais.
Il y a de ça plusieurs mois, comme quoi il allait se lancer à la mairie de Québec. Mais en même temps, il teste ses appuis.
Ah ouais.
Fait que plus on en parle... Plus peut-être les gens vont y en parler, plus peut-être il y a des chances qu'ils se lancent. Mais...
Je pense Denis Coderre aussi.
Mairie de Québec, Denis!
Il paraît que les partis libéraux, ça ne fonctionnera pas.
Mais tu sais, Claude Villeneuve qui sort, qui dit « je ne suis pas sûr si je vais me représenter ». Ils ont déjà une équipe en place, l'équipe de Claude Villeneuve. Là. C'est l'ancienne équipe du maire Labeaume. C'est une équipe qui est en place. C'est une solide équipe. Donc, est-ce que Sam Ahmad pourrait être intéressé par cette équipe-là ou l'équipe de Pouliot et... pas Pouliot, mais Paquette et Lachance? On ne sait pas.
Je sens, par contre, que le discours ambiant et l'ambiance point à la mairie de Québec en ce moment, elle est juvénile. Et ça m'inquiète pour une future campagne électorale municipale. Puis je le dis, tu sais, avec un certain ton humoristique, mais je le suis très sincère dans ma prise de parole à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des gens qui vont être fâchés contre moi là, de ouais. ce que j'avance, là, surtout ceux qui sont entre les murs de la mairie en ce moment. Mais il y a quelque chose pour moi qui est préétabli, qui n'est pas dans le bon sens, qui ne va pas dans le bon vent non plus.
Dans l'actualité, mon ami, on jase de quoi?
Oui, on peut commencer notamment avec la police de Québec qui a ouvert une enquête en lien avec un homme qui aurait tenté d'empoigner un enfant à la sortie des classes hier dans le secteur de Cap-Rouge. L'événement qui n'est pas considéré comme une tentative d'enlèvement pour le moment, mais ça s'est produit vers 16h du côté de la rue des Chasseurs. L'enfant de 11 ans revenait directement vers sa maison depuis l'école primaire Labrisseau, qui n'est pas très loin de là. Puis quand il y a un homme aux cheveux blancs qui est arrivé derrière elle pour attraper l'enfant par le dos.
Donc, c'est une jeune fille?
Oui, avec ce qu'on comprend. Enfant, donc on ne sait pas ce
qu'il... derrière
elle. Moi, j'ai dit derrière elle, mais en fait, c'est un enfant, pardonnez-moi.
Le sexe n'est pas sorti.
Non, exactement. L'homme qui marchait derrière lui l'a agrippé d'une main par la taille pour la ramener vers lui sans lui parler. Notre fils a réussi à se faufiler en esquivant l'homme, c'est ce que raconte la mère de l'enfant.
Donc, c'est un petit gars?
Okay. La mère de l'enfant. Appelé rapidement sur les lieux, la police de Québec qui effectue un ratissage dans les environs qui s'est avéré négatif. Donc, on n'a rien trouvé. On n'a pas trouvé la personne en question. Il y a une enquête qui a été ouverte et on a des patrouilleurs qui font de la surveillance en ce moment.
On a-tu des gens qui étaient témoins de la scène ou ce n'est que le raconté du jeune garçon?
C'est un... on n'a rien en ce moment. Le garçon qui n'a pas été blessé, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais sa famille qui demande à la population de contacter les autorités, là, si vous avez finalement des informations en lien avec tout ça. Complètement fou ce qui s'est passé.
Si ça s'avère, c'est pas mal le pire cauchemar, Yannick, pour des parents.
Oui, ça sème les mois tout le temps dans les quartiers. Quand ça arrive, tu sais, moi, je me souviens, il y a de ça peut-être quelques mois, à Scott, on nous disait qu'il y avait une vanne qui se promenait puis qui ralentissait quand il était aux abords des enfants. Donc, tu comprends que les fameux Spotted, là, Sainte-Marie, Spotted, Scott, tout le monde se relayait l'information pour être sûr, certain de pogner le gars, mais... Vanne blanche, tu sais, vanne blanche la fin de semaine, bon, c'est un peu plus facile à trouver, mais vanne blanche, des entreprises, il y en a en sacrifice là, qui ont des vannes blanches. Donc,
là, tu veux pas accuser n'importe qui non plus, tu commences à accuser Céline ou Patrick, ils font juste circuler.
Oui, puis on se souvient tous quand on était ticu, tu sais, des légendes, là, des gens qui essayaient de nous enlever. Il n'y a pas un parent qui aime ce genre de situation-là. Des témoins visuels autres que le jeune garçon qui se serait fait presque attraper, on semble pas en avoir, mais au moins, le signalement a été fait.
Ouais.
Et puis, il faut rester alerte.
Autre chose en actualité, on en parlait notamment hier, climat toxique à la ville de Québec, Alicia Despins de l'opposition officielle qui avait pris le temps de donner une plainte en lien avec ce climat-là du côté de la ville de Québec. Puis aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la ministre André Laforêt qui a déposé un projet de loi pour protéger les élus puis sévir contre différentes menaces d'intimidation que ces personnes-là font face. La loi qui a été présentée là, au Salon Bleu par la ministre des Affaires qui vise à protéger les élus municipaux, mais aussi les députés de l'Assemblée nationale. Ce projet-là, on prévoit la possibilité pour un élu d'obtenir une injonction de la Cour supérieure lorsqu'il fait l'objet de propos ou de gestes qui entravent l'exercice de ses fonctions. Puis si, par exemple, il y a quelqu'un qui se fait attraper ou quelqu'un qui se fait finalement, qui est menaçant envers quelqu'un, qui l'intimide, qui harcèle, bien, c'est passible d'une amende de 500 à 1 500 $. Il y a des amendes de 50 à 500 qui pourraient également être imposées à des personnes qui causent du désordre de manière à troubler le déroulement d'une séance du conseil d'un organisme municipal. La ministre des Affaires municipales qui souhaite également en profiter pour se donner le pouvoir de reporter une élection municipale. Donc, avec tout ce qu'on a su dans les derniers mois, bien sûr à Québec, mais un peu partout dans la province, que plusieurs quittaient le bateau en raison de ces différentes de ce harcèlement-là, ben on a pris là, les bouchées d'eau et on a décidé d'y aller d'un projet de loi pour Québec.
Merci beaucoup, le Canadien qui a signé une solide victoire hier, 9-3 face aux Flyers. Tour du chapeau de Slavkovski.
Ouais.
2 buts chacun pour Gallagher et Dvorak. 3 passes pour Jordan Harris qui a connu un bon match et 33 arrêts pour Samuel Montembeau. C'était le fun hier, le match pour les fans du Canadien. Pour ce qui est des fans des Flyers, parce parce que je sais qu'il y en a pas mal à Québec. Désolé pour vous autres. Ce sera pour une prochaine fois, les amis.
En pleine bataille pour les séries, pour les Flyers. Ouais. Et là, on recule tranquillement. On est à 4 points des séries en ce moment. À 2 points, pardon, des séries. Les deux dernières places disponibles dans l'Est, c'est les Islanders et les Capitals qui l'ont. Les Penguins, les Red Wings sont à 1 point de la place. Et on a les Flyers par la suite à 2 points. Ça va être une course jusqu'au dernier match de la saison.
Prochain match demain, 19h30, contre les Islanders de New York pour les Canadiens de Montréal. Hey, il y a eu un sondage dans la Ligue nationale qui a été rendu public. On posait la question aux joueurs pour un gros match, là, pour le match, la finale de la Coupe Stanley. Quel joueur vous prenez en premier? Si tu n'avais pas vu les résultats, tu aurais pris qui, toi?
Si j'avais pas vu les résultats, j'aurais pris... J'aurais pris Crosby encore.
Moi aussi, j'aurais pris Sidney Crosby. Il fait partie du top des joueurs qui seraient sélectionnés par les joueurs de la Ligue nationale de hockey. Sinon, les autres, Kucherov, qui est actuellement le meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey, est dans le top. Panarin, qui évolue pour les Rangers de New York. Mais le joueur numéro 1 qui serait choisi pour un match final de la Coupe Stanley, c'est carrément Connor McDavid.
McDavid passe avant Crosby pour cette situation-là.
48,71% des patineurs qui ont été sondés disaient « on le met dans la formation ».
Quel gardien tu veux pour remporter une rencontre, toi Yann, en ce moment dans la Ligue nationale?
Patrick Roy.
C'est pas une réponse à donner.
Ce serait Vasilevskiy?
Oui, c'est exactement. C'est Vasilevskiy qui est au premier rang, le gardien du Lightning, à 46,92%. Puis du côté des défenseurs qu'on sélectionnerait, Cale Makar de l'Avalanche du Colorado.
Ouais, je joue sur Xbox là, contre un gars.
Il est assez fort.
Ah, c'est incroyable. C'est les gars qui sont capables de jouer à NHL 2024, puis qui sont capables de bien utiliser les joueurs élites. Makar, t'es même pas capable de l'arrêter.
Ah, impossible.
C'est pratiquement impossible. Est-ce que notre chroniqueur international, Louis Gauthier, est là?
Bonjour, Québec!
Hey, Louis!
Comment ça va, cher ami?
Ah, moi, toujours de bonne humeur, surtout quand je vois la grande dame et la première dame de Marceau de Midi.
Ben oui!
Tu pensais que c'était toi, Yannick?
La Pascal CV!
Elle mange pas, non, en plus, Louis!
La photo que vous avez postée sur la page de Boulevard ce lundi, là, avec Melania et Donald Trump, c'était merveilleux. Tu sais, dans la folie de l'éclipse, là,
oui.
La journée où les aveugles ont retrouvé la vue, c'est incroyable. Il s'est dit des conneries, là, mais des absurdités. Avez-vous vu, l'animatrice, ou entendu l'animatrice, une des animatrices de View, même que Whoopi Goldberg a failli quitter encore hier quand elle a dit ça. Elle a dit que la cause des changements climatiques était... l'éclipse solaire participait à la cause des changements climatiques néfastes à notre société.
Non, c'est du grand n'importe quoi.
Elle est allée dire ça. Ouais. Moi, j'en reviens pas qu'on laisse passer ça que dans des heures de grande écoute, là. Mais que veux-tu? C'est de l'afternoon whack.
Mais c'est rendu que ça. T'sais. Puis je regardais les médias québécois qui mettaient l'accent sur l'éclipse solaire. Plutôt que de mettre l'accent sur l'éducation, on nous parlait d'histoires de plantes qui pourraient peut-être souffrir de l'éclipse solaire.
Je cherche encore ça. Pourquoi on s'est questionné là-dessus?
On se dit, mais pourquoi on est rendu là? T'sais? Puis de voir qu'il y avait des écoles qui étaient fermées, d'autres ouvertes. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas gardé ça ouvert?
C'est la culture de la peur qu'on a appris à développer. Je te dirais, dans le déploiement des propos excessifs suite à la COVID.
Tu sais, puis là, on l'a vécu, là. On a fait le tour du Québec, là, de ce que je comprends. Les reporters ont fait le tour du Québec, puis il n'y a aucune rétine qui a été brûlée, là. Aucune rétine brûlée sur 9 millions d'habitants. On peut-tu passer à d'autres choses?
Je parlais ce matin, Yannick, avec une spécialiste en ressources humaines, et elle parlait justement de cette liberté de propos qui dérape dans tous les sens. Et je lui ai expliqué ça de la façon suivante. C'est que le silence a appris à parler. Il ne s'exprime pas de la bonne façon.
Ah, c'est bien ça, Louis.
Oui, c'est dans ma sagesse de mes 60 ans.
Ben oui, c'est ça.
Je m'améliore.
Ouais.
Hey, avez-vous vu ce qui s'est passé dans les ambassades depuis une semaine?
Ce serait la fin de l'immunité territoriale des ambassades, mon ami.
Oui, ça ressemble à ça parce qu'écoute, l'Équateur, cette semaine, ont envoyé ses forces policières dans l'ambassade du Mexique à Quito, la capitale, pour aller chercher un ancien vice-président accusé de corruption équatorien. Ils ont rentré dans l'ambassade du Mexique. Donc, c'est une incursion sur un territoire d'un pays. On a vu la semaine dernière 6 missiles attaquer l'ambassade de l'Iran à Damas, en Syrie.
Ouais.
Dans l'histoire, ce qu'on retient beaucoup, en 2012, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, qui est allé se réfugier, bizarrement, dans l'ambassade de l'Équateur, hein, est habitué de faire les nouvelles. Et moi, ce que j'ai remarqué là-dedans, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU, n'est même pas intervenu dans les derniers... dans ce qui est arrivé, justement, à Quito sur la fin de la semaine dernière. On ne se prononce pas. Puis, il y a comme un genre d'assemblée des Nations unies, ce qu'on appelle le CARICOM, dans les pays de l'Amérique latine. On ne s'entend, parce que là, il y a une réunion d'urgence qui a été demandée là-bas par le président mexicain et par le président hondurien. Et on n'arrive pas à s'entendre sur les textes de cette rencontre pour condamner ce qui est arrivé par le gouvernement, qu'est-ce qu'a exécuté la semaine dernière le gouvernement équatorien. Donc, on est en train de voir qu'on ne donne plus vraiment d'importance. Et la semaine dernière, à l'OTAN, lors de la réunion du 50e anniversaire, le secrétaire général Stoltenberg a demandé 146 milliards de dollars supplémentaires en fonds d'urgence pour aider l'Ukraine. Mais la question que je me suis posée, ne serait-il pas l'occasion de revoir le fondement même de ces organisations de défense de l'Occident, c'est-à-dire l'OTAN, le Conseil de sécurité de l'ONU et de l'ONU? Parce que le chiffre anniversaire le dit, ça fait 50 ans, donc c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas rebougé. Veux pas, la situation géopolitique dans le monde a changé. On n'est plus confronté aux menaces du Bloc de l'Est. On est confronté plus à des menaces qui se font au Moyen-Orient. On voit ce qui se passe sur la côte Pacifique Ouest, c'est-à-dire le détroit de Taipei. On voit la Chine qui fait sa prédominance. On a vu cette semaine une rencontre de planification stratégique entre les Russes et les Chinois. Et le premier ministre japonais est présentement à Washington dans une rencontre avec la présidence américaine. Donc, on voit qu'on est en train de se positionner. Mais l'OTAN, qui a un rôle justement de diplomatie, de sécurité, comme l'ONU, semble être absent de tout ce processus-là dont je viens vous parler. Donc, est-ce qu'ils ont leur raison d'exister encore ou doit-on les reformuler? Pourquoi pas que ça devienne des tasses de thé à prendre à 3 heures l'après-midi pour discuter de tout et de rien. Et je rajoute à ça le budget de 8 milliards de dollars, l'enveloppe budgétaire sur 5 ans que Justin Trudeau a annoncé dans ses prédictions, dans ses dispositions prébudgétaires qui seront annoncées la semaine prochaine. On a dit que ça n'atteint pas la cible de participation à la sein même de l'OTAN, mais il faut regarder ça d'une autre façon. Est-ce qu'il est en train, justement, de redorer l'armée canadienne au niveau de ses équipements, au niveau de sa formation, au niveau de ses technicalités, pour venir renforcer notre frontière nord, pour renforcer les frontières de notre pays? C'est ce qu'on voit dans d'autres pays. On va investir beaucoup plus à l'intérieur même de nos terres,
ouais,
que de dépenser à l'international parce qu'on n'avance pas. On voit ce qui se passe en Israël, on voit ce qui se passe en Ukraine, on voit ce qui se passe partout. Donc, on commence à resserrer nos frontières. Ce qui m'amène à dire, est-ce que Justin Trudeau est en train de gagner des points s'il réussit à gagner ce pari-là?
Là où l'argent, par contre, puis c'est une opinion d'une jeune femme de Québec là, dans les médias, là, ça n'a rien à voir avec un côté expert où moi je la trouve importante, c'est plutôt en écoutant les relations internationales. Dans tout ce qui est ambassade, normalement, c'est un droit acquis de paix ou encore comme de respect entre pays parce que tout le monde avait un pied à terre à quelque part pour aider leurs propres citoyens d'abord et avant tout comme point principal, en fait, là, en cas de danger ou en cas de problématique X. Mais avec, justement, je vais l'appeler le chaos qui est en train de se dérouler partout dans le monde et que les ambassades se ferment ou se vident ou autre, puis il n'y a plus ce droit de respect-là collectif à l'international. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Je trouve que c'est un des premiers pas inquiétants dans ce que sera l'avenir dans les discussions géopolitiques. Puis je m'explique, entre autres en Chine, quand on s'est mis à fermer notre ambassade puis à sortir les gens, à sortir les journalistes par peur, par crainte de représailles ou autre. J'ai encore en tête Jean-François Lépine qui dit « Le peuple chinois va respecter les autres s'ils se tiennent. » Puis il dit « On est en train d'évider, on manque d'informations parmi un peuple qui est capable d'aller chercher son information partout et qui même pousse des portes de façon non éthique et non morale aussi. » Là, on est en train, nous, de s'affaisser en fermant ces ambassades-là, en les vidant, quand ça reste notre point d'ancrage pour une force quelconque, même si le Canada n'a jamais été connu comme étant une puissance de négociation.
Tu as touché un point important. Oui, c'est inquiétant, Pascal, mais il faut comprendre le fondement même d'une ambassade. Une ambassade est là pour établir des liens diplomatiques avec le pays où elle se trouve. Lorsqu'on établit une ambassade dans un pays donné, c'est un privilège que le pays en question nous donne. Et une fois que ce privilège-là est donné, il peut être retiré pour peu importe la raison. Et une fois que l'ambassade est sur place, ça devient un territoire du pays, un territoire fédéral. Oui. Donc, c'est comme essayer... Qu'est-ce qui est arrivé en Équateur, là, à l'ambassade du Mexique? C'est qu'on a entré de force au Mexique.
Ah, c'est l'équivalent d'envahir un pays, là.
C'est l'équivalent d'envahir un pays. Ce qui est arrivé à Damas, lorsque les missiles israéliens ont attaqué l'ambassade de l'Iran à Damas, c'est une attaque directe au pays.
Au pays, c'est ça. Mais oui. Moi, mon inquiétude est là. Je comprends que d'aller envahir, d'aller s'imposer, c'est une chose. Est-ce que c'est vraiment un privilège? Ma vision, pour moi, détonne un peu de ça, parce que j'ai l'impression plutôt que c'est une nécessité dans tout ce qui est discussion, dans tout ce qui est ordre X. Puis on le voit aussi, les journalistes étaient beaucoup moins touchés auparavant. Il y avait comme un aura autour d'eux. Il y a quelque chose de très particulier sur les règles de faire la guerre, sur les règles sociales, et même si on n'avait pas nécessairement la même façon d'avoir un gouvernement ou le même genre de personnes à la tête partout à l'international, puis chacun gère son pays comme il souhaite le gérer. Mais il y avait quand même le minimum de respect dans des règles de guerre.
Mais Pascal, tu dois comprendre qu'aujourd'hui, on est en train de vivre avec la culture de la cancellation de tout ce qui était dans la normalité.
Voilà, c'est ça qui est inquiétant.
C'est ce qui est inquiétant. Puis attaquer des ambassades, comme c'est arrivé depuis maintenant une semaine, c'est un non-respect des règles de Vienne, des règlements de Vienne. Mm-hmm. C'est un non-respect également, on l'a vu par les droits conférés par le décret de Genève concernant les prisonniers de guerre. La preuve, ce matin, le Hamas a confirmé à... Je ne fais pas du coq à l'âne là-dedans, mais je vous montre à quel point un autre volet n'est pas respecté.
Ouais.
C'est que là, il y avait un échange de prisonniers qu'ils devaient faire bien d'otages. Le Hamas, on a demandé de redonner à Israël 40 otages. Le Hamas a affirmé ne pas être en mesure de retrouver ces 40 otages-là. Quelle a été la réponse 6 heures plus tard? L'un des chefs du Hamas est en visite avec sa famille. L'armée israélienne a attaqué l'avion. Il y a 2 enfants, 4 petits-enfants du chef en question qui ont été tués dans l'avion. Alors, tu vois qu'on est loin, de la coupe aux lèvres pour régler ce problème-là. Donc, tout le respect des règles internationales a pris le bord dans cette culture de la cancellation dont je vous parle.
Et ça, ça parle beaucoup sur la protection personnelle, mettons qu'un pays va s'être développé. Parce qu'auparavant, le règlement non écrit ou écrit, comme la Convention de Vienne, là, après certains conflits à l'international qui a été rédigé, faisait en sorte que c'était ça qui faisait le principe entre pays. Maintenant, tu as une Russie qui dit, ben moi, je vais me défendre tout ça. J'ai pas besoin d'être dans rien, dans aucun règlement. Je vais attaquer comme je veux. Même chose pour d'autres pays, parce qu'à l'interne, ils ont décidé d'avoir leur propre défense. Il y avait comme un climat de peur si on ne respectait pas nos conventions auparavant, puis c'est tombé. C'est là, au moins, le bas blessé.
Ça revient à ce que je disais, Pascal. Serait-il le temps, justement, de revoir les dispositions entourant la convention qui a créé l'OTAN, la convention qui a créé le service de sécurité de l'ONU, elle-même, parce que tout ce qu'on dit là, c'est censé se discuter autour de la table ronde qui est à Manhattan, à l'Organisation des Nations Unies.
Mais il ne semblait pas y avoir, il semblait pas y avoir des discussions pour désamorcer le conflit entre l'Ukraine et la Russie. T'sais, la semaine passée, je t'ai glissé ça, mais en même temps, je ne veux pas paraître trop théoricien du complot, mais tous les milliards que les États-Unis vont donner à l'Ukraine pour que des entreprises américaines puissent bénéficier en fabriquant des armes, il y a une certaine hypocrisie derrière tout ça aussi. Je ne suis pas anti-américain, au contraire, je suis pro-américain, mais de voir que le conflit sert à énormément de gens actuellement, puis qu'il n'y a personne qui est en place pour dire là, on va s'organiser pour que ça, pour désamorcer les conflits, que ce soit entre Israël et le Hamas ou que ce soit entre l'Ukraine puis la Russie, c'est que ça profite à des gens présentement. Il y a énormément de gens qui font des milliards de dollars, puis ça arrête pas. Tu sais, il y a l'inquiétude, puis le moment n'est pas nécessairement bon pour dire, ben est-ce qu'on devrait revoir tout ça? C'est sûr qu'on devrait revoir tout ça, mais là, actuellement, il y a des grosses guerres qui se passent, puis il n'y a personne qui est là entre les deux en disant, là, il faut régler ça, là, parce qu'il y en a qui bénéficient.
Mais Yannick, je vais revenir, puis ma réponse va te surprendre, c'est que dans l'échange ou dans la vente d'armes militaires, puis dans l'envoi d'argent, ben, c'est un coût nul, c'est un coût zéro. Parce que l'argent est donné par les pays occidentaux pour acheter des armes. Les armes sont achetées par des entreprises étant établies dans des pays occidentaux.
Exact.
Et l'argent revient par des retours de taxes, par des fonds dans les caisses électorales, peu importe quoi.
Et voilà.
Donc, c'est un coût nul. Tout ce qu'on voit passer devient un coût nul. Donc, et c'est une nouvelle façon maintenant, lorsqu'on attaque une ambassade, lorsqu'on fournit des armes à un pays limitrophe, à la Russie, tout ce qui se fait, c'est une forme de guerre froide 2.0 parce qu'on se tient sous ses gardes puis personne ne veut peser sur le piton rouge pour partir une guerre nucléaire. Mais lorsqu'on a vu tout ça, il y a eu une organisation qui a été fondée justement pour calmer le jeu, puis ça s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Et ce que je vous dis ce midi, où est-elle? Est-elle toujours en vie? Est-elle inerte? Est-elle amorphe? Faut-tu mettre la clé dans la porte puis reconstruire à côté sous une nouvelle forme? C'est ce que je vous dis, parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête, ça pète de partout dans le monde. On a parlé de la possibilité d'une troisième guerre mondiale, mais qui va peser sur le piton de la troisième guerre mondiale? Il n'y en a pas un pays qui va le faire. Il n'y a pas un pays qui veut porter l'odieux dans l'histoire d'avoir pesé sur le bouton de la troisième guerre mondiale. Maintenant, on a fondé une organisation pour calmer le jeu il y a plus de 50 ans, puis ça s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Ce que je vous dis aujourd'hui, où est-elle? Il faut lui donner un coup de pied dans le derrière pour qu'elle se réveille, parce que c'est là qu'il faut qu'elle mette ses culottes, qu'elle attache ses bretelles, puis qu'elle mette le poing sur la table, puis qu'elle dit là, ça va faire, ça va arrêter. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Parce que là, on est rendu qu'on attaque des ambassades, on attaque des civils. Le pourcentage de dommages collatéraux qui se causent dans le monde, Yannick, c'est débile. OK? On attaque n'importe quoi, de n'importe quelle façon.
Non, c'est des civils c'est des victimes collatérales qui sont tuées jour après jour. C'est d'une tristesse. Mais si la guerre ne profitait pas à personne, il n'y en aurait pas de guerre.
Oui, puis il y en a toujours eu.
Mais c'est juste que dans le carnage actuel de ce qu'on connaît, dans les attaques et autres, c'est comme s'il y a des craintes supplémentaires à savoir jusqu'où ça irait. Je ne sais pas si tu le sens comme moi, Louis.
Ben oui, c'est des craintes, mais c'est l'objet même d'une guerre froide. On est toujours sur le qui-vive, ouais. On se protège tout le temps.
Sur la ligne.
C'est ça la ligne, on ne sait pas qui va la franchir.
Dans l'apparence, oui. Mais dans l'apparence, voilà. On l'a vu avec la Russie aussi, là. Quand l'Ukraine, supposément si faible que ça par rapport à la Russie, a été capable de se rendre à Moscou avec des drones, a été capable de faire du grabuge et n'est toujours pas envahi à 100% à ce jour. Il y avait tellement d'apparence dans ce qu'on connaissait de Vladimir Poutine.
Ouais. Ils ont même été récupérés plus de 5% du territoire
qui avait été conquis
dans la région du Donbass.
Mais... Le drone qui s'est rendu au-dessus du palais, on n'est pas sûr que ce soit l'Ukraine, là.
ça peut venir du Tadjikistan, tu sais, ça peut venir...
Ça peut venir de Vladimir Poutine lui-même.
Le point était... Ben non, ça, il ne ferait jamais ça à son apparence, jamais, parce qu'il a paru vraiment moins fort qu'il l'était, mais ça reste que sa protection, sa milice, son armée n'a pas été capable de le détecter. Là, était plutôt le point de faiblesse, en fait, quand il avait dit, ben nous autres, c'est un château fort, il n'y a personne qui va réussir à entrer, là.
Mais tu dois comprendre, Pascal, que Vladimir Poutine n'est pas accepté à 100% dans son pays.
Non.
Il y a des fractions vraiment réfractaires à son pouvoir. puis souvent, des attaques comme ça, ça peut venir à l'intérieur même des frontières.
On l'a vu beaucoup. On l'a vu beaucoup au début de la guerre, mais ils ont été rapidement arrêtés aussi.
Et oui, on en parlait au début du conflit. Moi, j'étais persuadé qu'à un moment donné, Poutine, il allait tomber dans le bas des marches, puis ça allait finir là.
ça finit.
Tu sais, les milliards de dollars qu'il a fait perdre aux oligarques du pays qui avaient quitté depuis des années, tu sais, j'étais persuadé à un moment donné que quelqu'un allait dire, ben là, moi, je crie vengeance, puis à un moment donné, il m'a le faire tomber de sa galerie, puis c'est pas arrivé.
Je sais pas s'il y a des goûteurs et des goûteuses aussi, hein, comme dans le temps avec
Hitler.
Ben,
il est tellement surveillé. Ouais. C'est l'homme probablement le plus surveillé
surveillé
du monde.
Il n'a fait aucune sortie publique. Ben, il en a fait une lors de l'attentat à Moscou il y a déjà bientôt 3 semaines. Il a fait une sortie publique là, mais à part ça, il n'en fait pratiquement pas. C'est tout le temps dans des endroits ultra hermétiques où on ne sait pas où il se trouve. Alors, c'est très, très difficile de l'atteindre. Puis lorsqu'il s'est attaqué aux oligarques, justement, il a parti le feu avant qu'il s'allume seul.
C'est ce qu'il a fait. Louis Gauthier, je te souhaite de passer un beau voyage. Tu es dans quel secteur, là?
Là, je suis à peu près à 20 km à l'ouest de Moose Jaw, entre un champ de blé puis un autre champ de blé. On appelle la tête de bière du Canada, la Saskatchewan. Et je devrais arriver chez moi à Winnipeg ce soir.
Bon, je te souhaite bonne route, mon ami.
Prudence.
Et à Québec au cours du week-end.
Yes! Oh yes. Salut, Louis!
Bye-bye.
Hey, bonne fin de semaine, tout le monde.
Bonne fin de semaine. Louis Gauthier, chroniqueur international. 1h04, vous avez des choses à nous dire sur le 88-971-1021. 88-971-1021, on revient.
Marceau, le midi.
13h09, c'est 8 degrés sur Québec. 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire, il se passe quelque chose sur la route. Des averses, c'est ce qu'on a prévu pour les prochaines heures. Demain, on parle de pluie aussi. Ce sera nuageux. 40 à 60 % de probabilité d'averse pour ce qui est de demain. Total tout dans la journée. Minimum de 8, un max de 10. Vendredi, pluie intermittente, maximum de 16 degrés. Samedi, de la pluie, maximum de 12. Et dimanche, ce sera une journée qui sera nuageuse avec un maximum de 11, alors qu'on nous annonçait plein soleil dimanche.
Plein soleil.
Finalement, ça sera pas ça. Promo Rock'n'Ball, mon ami.
Oh, yes, sir. Si vous n'êtes pas inscrit encore, ben je vous invite à écouter parce que ça en vaut vraiment, mais vraiment la peine. Vous le savez, ici à Boulevard, on est des tripeux de musique. On adore le sport aussi. Puis on veut vous faire triper. On adore ça le faire. Puis grâce à notre belle collaboration avec Variété 2020, qui est ton partenaire pour faire des économies, je vous invite notamment à aller voir leur page Facebook avec de la nouvelle marchandise à chaque jour à des prix incroyables. On parle de vêtements, on parle de jouets, on parle d'électronique. Il y a plusieurs belles affaires sur leur page Facebook. Puis, c'est le concours Rock and Ball. On vous envoie en Californie pour 2 super événements. 2 billets, notamment, on vous donne pour la tournée réunion de Blink-182 au Chase Center. Et on vous donne aussi 2 billets pour aller voir les Giants de San Francisco au Oracle Park. Et pas contre n'importe quelle équipe, contre l'équipe canadienne, les Blue Jays de Toronto, qui sont sur une séquence en ce moment de 2 victoires de suite face aux Mariners de Seattle. Ça se passe en juillet prochain à San Francisco, comme je l'ai dit. Ça inclut le vol, l'hébergement et on vous donne l'argent de poche en plus. Pour participer, vous entendez une chanson de Blink-182 sur nos ondes et vous allez ensuite sur notre site web, le blvd.fm, et vous notez à quelle heure vous l'avez entendu et vous allez peut-être devenir finaliste. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à quand? Jusqu'au 26 avril prochain. C'est 2 participations par jour qui sont permises. Donc, plus vous écoutez, plus vous avez de chances de gagner et de devenir finaliste. Un gros merci encore une fois à Variété 2020. C'est un trip de fou d'une valeur de combien de dollars, ça? 4000 beaux dollars!
Wow! Merci, merci,
yes,
merci!
Sir.
Hey, Pascal, je voulais te parler de ça. C'est un sujet que j'ai vu passer il y a de ça quelques semaines, très honnêtement. J'ai vu que la gang de 24 heures en avait parlé dans les derniers jours. Ils parlent d'un podcast. Écoute, c'est un podcast qu'on dit « masculiniste ».
Ah non, tu vas pas exactement là où...
Ben, je pense que oui.
Je pense.
C'est complètement dégueu, comme ça n'a pas de bon sens. Là. Tu m'as parlé de ça, Yann, puis tu me dis, hey, j'aimerais ça que tu sors-moi un petit extrait. Ouais. Je m'envoie écouter ça sur YouTube, puis je tombe en bas de ma chaise.
J'aurais dû t'avertir avant.
Hey, tu m'as pas averti.
On dit que c'est des animateurs. On dit que les animateurs sont anti-féministes. Et le podcast s'appelle Lucide Podcast.
Ouais. J'aimerais ça que ce soit la seule fois qu'on le dise, le nom du podcast.
Pourquoi?
Parce que j'ai peur que ce soit de la promotion. Genre, que par curiosité, du monde y aille. Puis qu'eux, yes, il y a des likes de plus, il y a des écoutes de plus. C'est rare que je suis aussi irrécupérable sur un sujet,
ouais.
Mais là, je le suis.
C'est comme une version d'Andrew Tate, mais plus à la sauce québécoise. Puis je me demande toujours pourquoi ce genre de podcast-là existe. Tu sais quoi? Moi, c'est que ces gars-là puissent dire ces affaires-là, là, ils peuvent le dire, OK? Mais moi, je ne suis pas obligé d'écouter. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec eux, mais ils ont le droit de le dire. Puis de vouloir les canceller, je trouve ça très particulier parce qu'à un moment donné, ça va être qui la police de la cancellation? Ouais, puis non. Qu'est-ce qu'il va pouvoir se dire? Qu'est-ce qu'il ne pourra pas se dire?
Ça m'énerve parce que je comprends ton discours. Puis là, je suis tellement confrontée à mes valeurs que j'ai envie qu'ils soient cancellés. Fait que je comprends des gens, des fois, d'être au bout, mettons, de leur corps. Puis se dire, hey, moi, ceux-là, là, c'est terminé. Pas. Écoute, ils vont peut-être m'entendre en ce moment, puis je vais passer dans leur podcast en disant, bon, t'as-tu vu la vieille féministe mongole qu'on a dit, gna, puis je peux même pas utiliser ces termes-là, vous comprenez.
Ouais.
Mais j'ai vraiment de la misère, Yannick, puis ça vient me confronter dans mes valeurs de droit de la parole, de pouvoir dire ce qu'on veut.
Je te pose une question. Je pense avoir la réponse d'avance, mais j'ai pas l'impression que tu vas me dire la vérité. Okay. Si, à l'inverse, c'était des filles.
Ah, j'aurais le même et profond problème.
Mmh. Ben, c'est parce que ça se fait beaucoup à Radio Montréalaise, puis il n'y a personne qui les empêche de parler. Personne le nombre de gens qui me disent « Yann, t'as pas idée à quel point, quand j'écoute ces émissions-là, les gars sont dépeints comme étant que des idiots, des hommes des cavernes, qui sont incapables d'avoir une certaine sensibilité, qui sont incapables de s'occuper des enfants. » Fait que si,
alors, amenez-moi des extraits, puis je vais être aussi sévère.
Si les extrêmes comme ça existe, parce que l'autre bord existe aussi. Mais de voir qu'une certaine tranche de la population aimerait canceller ces gars-là, je me pose des questions. Mais si vous le faites d'un bord, il faut le faire de l'autre.
Ah ben, je veux les pointer du doigt sans problème.
Je me bats toute ma vie pour que ces gars-là puissent parler. On est au Québec et on est dans un pays libre. Ces
liberté
gens-là
d'expression.
Ont le droit de dire des choses, mais on a le droit aussi de dénoncer ce type de propos-là quand on n'est pas d'accord. Comment ça sonne, vous allez me dire? Je vais vous faire entendre quelques extraits. Je ne cautionne en rien ce que vous allez entendre, les amis.
Je me suis demandé si c'était du spectacle, tellement que c'est comme...
Je pense qu'il peut peut-être y avoir effectivement une...
Parce que c'est caricatural.
Oui, en même temps, les autres, ils ont des petites entreprises, font virer leurs entreprises
par
rapport au Lucide Podcast. Mais bref, je vous fais entendre deux extraits, puis vous me direz ce que vous en pensez au 418-971-1021.
On le sait que les filles veulent de l'attention. Là. Depuis que le monde est monde, les filles veulent de l'attention.
Tu l'as fait quand tu étais célibataire.
Ouais, c'est une affaire de célibataire, ça. Là. Si tu sors sexy avec tes chums de filles, tu sais que tu vas avoir l'attention des autres gars, puis c'est ça que tu cherches. Mm. On va me faire à croire que tu veux juste danser avec tes amis.
Mais
filles. Fais ça
vois,
chez vous.
Tu vois, on a, là, c'est sûr qu'on va piss off bien des femmes en disant ça, mais l'affaire, c'est que moi, ma blonde, elle n'a aucun problème avec ça. Ça ne tente pas de... Tu sais, c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est pas de l'oppression pour nous autres, parce que... Ma blonde, clair, elle aime ça être avec moi. Elle aime ça m'accompagner dans mes projets, mes activités. Elle veut sortir avec moi. Ça, elle tente pas de faire le party. Elle est plus là dans sa vie, là. Mm. Ça, elle tente pas d'aller dans les festivals, pas de pire de la pilule, faire ces affaires-là, ma blonde. Fait que, tu sais, ça n'a pas été difficile. Ça n'a pas été difficile, moi, de la convaincre. En fait, j'ai même pas eu à la convaincre.
Elle
me demande pas toute de sortir. Ça, elle tente.
Parce que les femmes, c'est plate à dire, mais en termes de leadership, elles sont très, très mauvaises pour l'idée puis entreprendre des choses. Vraiment, puis même pas juste sur un côté, sur le côté relationnel, sur le côté professionnel, je pourrais ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, puis j'ai essayé de partir des projets avec des femmes.
Non, mais n'importe et... qui est déjà aménagé chez une femme qui a fait cette erreur-là, moi j'ai fait cette erreur-là, là, quand, dans la vingtaine, qui a aménagé chez une femme le sait. Quand tu aménages chez une femme, puis après ça, c'est elle, c'est ses affaires, c'est.
Puis elle te met automatiquement dans.
C'est elle la bosse, là.
Donc là, c'est deux extraits, des extraits assez courts, mais
le premier
pour...
poubelle, on comprend même pas c'est quoi le raccourci qu'ils font, ils passent d'un sujet à un autre. Le premier envoyé dans la poubelle.
Ce qu'il disait, c'est que les femmes qui aimaient attirer l'attention, c'était pas nécessairement des femmes pour eux. C'était pas,
ben,
c'était pas des femmes qui voulaient être en couple, qui voulaient être sérieuses.
Puis pas
tout
juste ça, il a dit ben les femmes ils s'habillent sexy pour se faire regarder, se faire looker. Ben il y en a probablement, puis il y en a aussi que non, c'est parce qu'ils aiment ça, être habillés comme ça.
C'est vraiment des discours extrémistes, puis tu sais, de voir...
Le deuxième est très particulier.
Que les femmes n'avaient aucun leadership, ça n'a juste pas de bon sens.
C'est vraiment... Puis j'utilise le terme particulier.
Je peux pas m'imaginer, tu sais, puis je veux pas rentrer trop dans le personnel avec eux autres, là, mais tu sais, ta mère, quand elle t'écoute, là... Es-tu fière,
mettons,
de l'éducation qu'elle a donnée à son fils? Ton père, il est-tu comme toi? Ou bien, il est un peu outré de ce que tu es en train de dire des femmes?
Ça se peut que ça provienne pas des
de
parents.
De sa conjointe, mettons.
Ouais. Mais oui. Puis les parents de ta blonde, mettons, qui écoutent,
hey.
Ils réagissent comment?
Je sais pas.
Puis en plus, le deuxième extrait, le podcast en question, c'est les deux animateurs et la blonde d'un des animateurs qui est là.
Mais moi, c'est là où j'allais, parce que quand je les ai découverts, là, les deux messieurs, je vais être politiquement les deux, vas-y, les deux messieurs. J'ai vu qu'il y avait un bon nombre de femmes dans les commentaires et ou dans la participation qui étaient totalement en accord avec ça. Il était comme oh, okay. Oui, puis des fois il y a des propos du genre moi je veux pas que ma blonde travaille parce que c'est pas son rôle, c'est moi qui ramène l'argent à la maison, puis elle la gère à la maison, puis c'est comme ça. Puis une femme n'a pas à travailler. Puis j'ai déjà entendu ces propos-là, puis j'étais comme ben là la généralité de ce que tu es en train d'avancer me dérange. J'ai plein de femmes qui voudront peut-être pas travailler, qui vont vouloir un style de vie comme ça. Puis je le vois dans les commentaires, c'est écrit, après tout le monde choisit son mode de vie. Moi je t'ai parlé d'un ami qui voulait être père à la maison là, qui voulait pas travailler. Ouais. Puis c'était fait que chacun sa façon de voir les choses,
mais c'est
dans la généralité.
Il y a des filles qui adhèrent à leurs commentaires.
Non, c'est juste que je veux le nommer. Je veux nommer qu'il y a aussi des femmes qui adhèrent aux commentaires de ces hommes-là. Est-ce mal? Je ne sais pas. Mais ce qui me dérange, c'est de faire cette promotion-là avec tant de généralité et surtout d'agressivité. Là, on n'a pas d'extrait où ils le sont, mais ils le sont souvent. Ils le sont souvent. Puis qu'est-ce que ça va mener, ça, chez des petits gars, mettons, qui écoutent ça? C'est une compréhension de l'amour, c'est une compréhension des rôles menés par... ces deux hommes non-psychologues qui ont envie de faire un spectacle, d'être drastiques dans leur façon de voir les choses et dans leurs opinions. Puis même chose pour les petites filles.
On nous dit que les deux gars dans le podcast ne veulent ni d'une fille qui sort dans les bars habillés en pute avec ses amis, ni d'une fille qui fréquente les festivals. Ils exigent que leur femme soit le moins possible sur les réseaux sociaux ou du moins qu'ils aient un droit de regard sur leur téléphone.
Ça vous fait pas penser à certaines...
Ben, c'est des méthodes de contrôle.
Oui, puis aussi, tu sais, il y a des religions qui sont complètement proscrites du Québec puis qu'on veut pas ça parce que les droits de la femme sont bafoués. Dans la conduite, dans l'apparence, puis il y a plein d'hommes qui commandent probablement ces publications-là puis qui ne voudraient pas que ces régimes-là religieux soient présents dans notre société, mais qui encouragent ça. Et c'est moi, la question psychologique que je me pose derrière ça, c'est, ils ont-ils été déçus par des femmes dans leur vie? Qu'est-ce qui les pousse à vouloir tant de contrôle et avoir un discours de même? Parce que souvent, on le voit que c'est comme le début pour certains incels aussi, là, le genre de rage ou encore de contrôle qu'on souhaite avoir auprès des femmes parce qu'on a été soit diminué par certaines, parce que c'est pas tout le monde qui est correct dans la vie.
On va faire
aussi
de la psychologie à 5 scènes.
À 2 scènes.
Je regarde les gars, c'est vraiment des gars qui, au départ, n'ont peut-être pas eu toute la chance d'avoir un peu de confiance en
ils
eux.
Ils se rebâtissent une confiance.
Ils vont la chercher comme ça.
Ils décident de prendre en modèle des gars qu'ils considèrent comme un exemple de réussite, comme Andrew Tate. Puis ils essaient de s'adapter un peu à ce qu'Andrew Tate fait. Ils veulent avoir de l'argent parce que l'argent pour eux, c'est le pouvoir. Ils veulent être extrêmement musclés parce que quand ils sont musclés, ils se font remarquer. Fait que quand tu n'as pas une bonne confiance en toi au départ, que ce soit au primaire puis au secondaire, après ça, plus tu deviens adulte, plus tu essaies de t'en trouver une. Tu essaies d'avoir quelque chose que tu n'as pas. Puis là, ben, tu es rendu dans un endroit où tu devrais peut-être pas être, mais t'es dans les extrêmes, puis tu fais ce type de podcast-là.
Ça te rapporte popularité, parce qu'il y a des gens qui écoutent ça, il y a des gens qui adhèrent à ça. Je veux dire, on en parle parce que c'est venu à nos oreilles, parce qu'il y a des gens qui l'écoutent, parce qu'il y a des gens qui vénèrent ça. Mais ta psychologie à deux scènes, moi, j'y adhère. C'est une hypothèse que je trouve fort intéressante là-dedans.
Quand t'as de l'air d'un sapin de Noël, c'est peut-être parce qu'il manque quelque chose.
Ça, je suis pas prête à aller là. Je suis prête à l'entendre. Je suis pas prête à l'affirmer. Mais il y a quelque chose au niveau confiance, c'est sûr, parce que qu'est-ce que mais ce qui me dérange particulièrement, c'est dans l'apprentissage d'une relation, et où est l'équilibre et la voix de l'autre là-dedans. Puis tu sais, quand tu me disais, ouais, si c'était des femmes qui commençaient à dire, ah, ben nous autres, moi j'aime ça mener par le bout du nez mon homme, j'aime ça quand il dit rien.
C'est pas dit
j'espère
comme
qu'il
ça.
Irait pas. Non, mais mettons,
les femmes sont encore plus cruelles que ça. Ils vont mettre un vocabulaire qui est totalement approprié.
Où ça?
Ça passe à Radio-Canada, puis ça diminue l'homme constamment, puis il n'y a pas personne qui va dire, hey, ton discours, là, dans le sens que. T'as pas de l'air à aimer, gars. Ça se peut. Il n'y a pas personne qui va dire ça. C'est tout le temps accepté. Tu regardes les publicités. On en a eu au Québec pendant des années, même les publicités américaines. Le gars avait tout le temps de l'air du gros épais. Puis la fille avait tout le temps l'air, tu sais, comme de la fille qui était super bonne à la maison puis qui gérait tout, tu sais.
Là, je sais pas de quoi tu parles, mais mettons que je me fie à ce que tu dis. Je trouve ça pas mieux.
Je me base sur plusieurs années, mais moi, ces gars-là, ils ont le droit de faire leur podcast. Je me demande juste comment ça qu'il y a des gens qui essaient de les empêcher, parce que de l'autre côté, Radio-Canada, des fois, j'entends la même affaire, mais contre les gars.
Mais c'est parce qu'ils vont très loin. Il y a des propos pires que ceux-ci, là. Puis je m'étais perdue, malheureusement.
Mais c'est quoi les propos?
J'ai dédié des après-midi à des choses comme ça. Ben, tu fermes ta gueule, ça, c'est sorti quand t'es ma blonde. Tu fais le ménage, t'as pas ton mot à dire.
La soumission est venue.
Il y a une grande soumission qui est quand même assez agressive aussi dans certains extraits, là. Sexuelle aussi, là. Il y a comme une soumission sexuelle qui est avancée dans certains de leurs épisodes, mais il y a des femmes qui aiment ça, il y a des femmes qui ont appris l'amour de cette manière-là, mm-hmm. Il y a des hommes qui aiment ça, il y a des hommes qui ont appris l'amour de cette manière-là, et je trouve que ce genre de podcasts-là, qui sont d'initiatives personnelles, qui pognent auprès de peu importe qui, peu importe le genre, est problématique dans l'établissement d'une bonne collectivité, société, parce que si on valorise des comportements comme ceux-ci et qu'on laisse une trop grande portée, c'est l'éducation finalement que les jeunes vont avoir parce que c'est manquant à l'école, puis on travaille encore nos cours d'une manière qui est à revoir côté éducation sexuelle, côté relationnel, des cours de psychologie, des cours d'accord à l'école, pour moi, ce serait essentiel. On n'en a pas. Donc, un jeune ou une jeune qui tombe là-dessus et qu'il n'y a rien de censuré et où il n'y a pas encore d'avertissement par moment, ça personnellement, comme personne, et non animatrice radio, ça m'inquiète.
Ah ouais, je comprends qu'on veut... T'inquiètes-tu pour les jeux vidéo violents?
À certains points, oui.
T'inquiètes-tu pour les films d'horreur?
À certains points,
arrête
oui.
Arrête de t'inquiéter, fais confiance aux jeunes.
Non, parce que justement, je veux qu'ils soient entourés de personnes influentes. Un jeune qui n'est pas entouré de personnes influentes et positives autour d'elle, l'esprit critique peut se développer.
C'est
tu peux écouter ça.
La nature fait en sorte que tu as des modèles dans la vie, des modèles positifs. T'sais, moi, je n'avais pas de modèle paternel proche de moi. Puis à un moment donné, quelqu'un qui est arrivé dans ma vie qui est devenu
mais
mon modèle paternel.
Yannick, ce n'est pas tout le monde parce que toi, tu l'as vécu, qui ont ça.
Oui, mais je veux dire, la nature fait en sorte qu'on va prendre des modèles. Des fois, ça peut être quand tu as 16 ans, ton premier patron qui est gestionnaire d'entreprise, tu dis ah, OK, bien ça, c'est une figure positive au niveau du masculine. Là. C'est une figure positive, tu sais. Mais moi, que ces gars-là fassent ça, j'ai pas de trouble avec ça.
Moi, je te dis que ça vient me tirailler avec mon droit de la parole que je défends. Puis en même temps, de l'autre côté, je me dis, si quelqu'un consomme ça puis qu'il n'y a pas de modèle positif autour d'eux ou encore un modèle qui va faire en sorte que tu aiguises ton esprit critique, ça peut être plus problématique qu'on pense.
C'est parce qu'à un moment donné, tu vous allez vouloir instaurer une police. Puis là, la police, elle va décider... Non, mais je te parle de la société en général. Vous allez instaurer une police, puis là, la police va dire « Ah, ben ça, t'as le droit de dire ça, ça, t'as pas le droit de dire ça, ça, t'as pas le droit de dire ça, ça, t'as le droit de dire ça. » Ça finit plus.
Moi, je trouve qu'il y a quand même l'importance d'en discuter, puis de se dire « Il faut un esprit critique, puis où est-ce qu'on peut pallier à ce genre de simple exemple-là? » Écoute, s'ils sont bien là-dedans, clairement, ils ont l'air très bien là-dedans, mais
ils ont leur entreprise avec ça.
Mais je trouve que, ça veut dire qu'il y a des gens qui écoutent, puis qui apprécient, puis c'est là où moi, je suis un peu inquiète de, au contraire, d'avoir une discussion comme on aurait pu avoir, mettons, en onde sur le fait de dire « OK, là, il faut quand même mettre l'équilibre, la balance. J'aimerais ça qu'une fois de temps en temps, ils invitent des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec eux pour avoir un genre de discours. Mais non, parce qu'ils n'ont pas ce courage-là. Ils n'ont pas ce courage-là. Ce qu'ils souhaitent, c'est passer leur message, avoir le plus d'adeptes possible, faire de l'argent, être populaire. Et c'est là où, moi, je trouve que c'est de détruire une certaine partie de la société. L'humoriste qu'on a reçu tantôt ici, là, en onde, là, Philippe Lelouch, on a eu une belle discussion philosophique avec lui sur, justement, la différence entre un féministe qui est extrémiste puis un féministe, peut-être, qui est juste dans l'équilibre avec l'autre sexe, puis qu'au final, la place de l'homme est la même que la femme.
Ouais.
À chaque journée internationale du droit de la femme, je dis merci aux hommes qui me permettent d'être à la place où je suis, qui choisissent de m'écouter, pas dire « Hey, c'est une enragée quand j'ai des propos comme en ce moment dans la discussion », qui choisissent de m'entendre aussi quand je dis « Ouais, l'esprit critique, il faut aussi le développer », puis qui choisissent d'entendre quand je dis « Si des femmes ont des propos comme ceux des hommes que j'entends en ce moment, je vais les déplorer, puis ils vont me croire. »
Ah, faut être égal des deux côtés.
Tu sais, il y a ça. C'est quelque chose, je trouve, qui est à débattre.
Il y a un auditeur qui me dit, Yann, ça a déjà été dit sur les ondes de Radio-Canada, castrer les hommes. On l'avait entendu, ça, dans le temps. Il n'y a pas eu de plainte par rapport au fait que la chroniqueuse disait de castrer les hommes. Là.
Mais faites-le si ça vous dérange. C'est un droit personnel à tous et chacun.
C'est la plupart des gars, ils feront pas de plainte là-dessus. Il n'y a pas de gars qui vont écouter Radio-Canada quand ils vont avoir l'impression qu'on les prend pour des idiots qui vont faire
mais
des
plaintes. Mais c'est quoi ton point? C'est que tout le monde a le droit de dire ça? Fait que les femmes ont le droit de dire de castrer les hommes? Puis que
je cherche le point. La liberté d'expression.
Oui.
Puis je vais me battre toute ma vie pour que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi puissent le dire. Puis de l'autre côté, c'est la même affaire. Parce qu'à partir du moment où on essaie d'empêcher des gens d'avoir certains discours, ben on va essayer de dire, OK, ben faut essayer de trouver un juste milieu, puis on progressera jamais. Ces gens-là nous aideront jamais à progresser. Les gars de Lucide Podcast, là, moi, je progresserai pas en les écoutant.
Mais est-ce que toute opinion se vaut leur... en société? Ben, c'est une question intéressante à philosopher.
Il y en a qui disent oui. J'ai parlé avec un gars que j'aime bien, Christian, Christian Page, qui disait, tu sais, parce que moi, j'étais un peu plus comme ça, tu sais, ben toutes les opinions se valent. Puis Christian m'avait dit, mais non, Yann, si tu as besoin d'une opération au cerveau, tu vas-tu te fier sur l'opinion de quelqu'un qui passe dans la rue ou ben, tu vas te fier sur l'opinion de quelqu'un qui est un chirurgien?
Oui.
Un neurologue, ben tu vas prendre le neurologue.
Mais évidemment. C'est ça, ma question est là. Est-ce que toutes les opinions se valent vraiment?
Ben, la réponse, je viens de t'a donner, pas vraiment.
Peut-être quelques textos aussi, ça a fait réagir là, via le 88-971-1021, notamment là, quelqu'un qui écrit pour ma part que les gars fassent un podcast comme ça m'insulte et m'enrage. Je trouve ça profondément déplacé. Je suis 100% d'accord avec Pascal. Sinon, Amy qui écrit « Quand j'entends des propos comme ça, je trouve qu'on recule. » Donc, plusieurs textos là, en lien avec ces deux extraits-là.
Un parent qui dit « Apprendre à être misogyne sur un podcast ou sur un chantier de construction, c'est quoi la différence quand, voulant dire, il faut intervenir? Ouais. » Mon ado tombe sur ces vidéos-là et des fois, je trouve ça tellement niaiseux. Il en parle à ses chums puis il trouve ça drôle. Quand je te parlais d'enfance, de construction, de développement personnel, là, il y a ça puis de façon insidieuse, de façon précise ou non précise, ça va dans ton cerveau, dans ta prise de parole. Puis si tu n'as pas de bonnes personnes ou de bons exemples autour de toi qui te font pratiquer à développer ton esprit critique, puis dire, hey, ça fait-tu du sens dans ma vie, ou oui ou non? Puis tu sais, ça en fait pour vous, c'est votre opinion. Mais si tu n'es pas entouré pour développer ça, ce qui est essentiel dans la vie de chaque individu et où on voit le laxisme dans certains foyers ou à l'école de ne pas l'avoir fait, puis d'avoir tu certains propos pour des raisons X, Y, Z, puis de ne pas avoir la contrebalance dans nos écoles, ça crée une société qui en arrache puis qui tire de la patte.
La solution, c'est quoi?
En parler des cours de philosophie, avoir l'esprit critique. Pas juste dire qu'ils ont le droit de parler, c'est d'aller en onde comme on le fait, puis de dire, hey, ça, c'est acceptable ou pas? Puis si ce n'est pas acceptable, pour quelle raison? Est-ce qu'on doit le bannir ou on ne doit pas bannir? Est-ce qu'on doit signaler ou on ne doit pas signaler?
Les propos du podcast, on les dénonce, là. Mais ta solution, là, c'est quoi? C'est de les canceller?
C'est ce que je viens d'exposer.
Mais c'est de les canceller?
De mettre en lumière que ça existe. Où est la limite? Si ça existe...
Mais pour mettre en lumière, il faut que tu les laisses le faire.
Mais moi, Yannick, je ne suis pas Dieu tout-puissant. OK? C'est collectivement qu'on doit se poser la question à savoir, est-ce qu'on doit canceller ça ou pas? Puis si on cancelle ça, est-ce qu'on va jouer sur le droit à tous de s'exprimer?
C'est clair.
Est-ce que... Il y a toutes ces réflexions-là à avoir. Ma solution pour moi... c'est en ce moment de m'affirmer dans ma position que je trouve que c'est vraiment problématique, que ça me fait frissonner, puis que j'ose croire que des parents qui savent peut-être que leurs enfants vont consommer certains podcasts, qui vont les écouter avec leurs enfants, puis qui vont dire « Tu penses quoi de ça? »
Parce que si tu cancelles ces gars-là, il y en a 10 autres qui vont pousser.
Mais ça, je veux dire, c'est comme la mauvaise herbe, là.
C'est exact.
T'en arrives jamais au bout. Mais je reviens, et là, je vais l'avoir répété pour une 7e fois, il y a des solutions à prendre, puis pour moi, celles que j'ai exposées dans les dernières minutes sont celles, je pense, intéressante.
418-971-1021, 418-971-1021, qu'est-ce que vous en pensez? Nous autres, on s'en va à la musique. The Offspring, You're Gonna Go Far, Kid, sur les ondes de boulevard. Show me how to lie, you're getting better all the time and turning all against one. Is it art that's hard to teach? Another clever word sets off in a...
Doudou, Marceau 2.0.
Changé, moi, là.
Tente comme un agneau.
Je te regarde, c'est vrai que t'as changé, hein?
J'essaie d'y aller par étapes, tu sais.
Boulevard.
13h34, on dit qu'il y a beaucoup de gars qui écoutent Boulevard. Je peux vous dire qu'il y a énormément de filles aussi parce que la gang du Lucide Podcast a brassé beaucoup vos émotions.
Ouais,
les
filles, hein?
Énormément de gens qui nous écrivent. 418-971-1021.
Non, mais je trouve ça réducteur un peu que ce que tu viens de dire parce que au contraire, puis même, je trouve ça intéressant ce que Camille avance parce qu'elle est parent puis elle dit autant du côté...
Ça a brassé leurs émotions.
Elle dit elle est maman de 5 garçons. Puis elle dit, je trouve qu'on écoute des fois des féministes qui sont vraiment trop extrêmes sur les réseaux sociaux.
Oui.
Puis en ayant justement ce podcast-là, qui est extrême dans l'autre position, ça me permet justement d'aller faire analyser un peu les deux côtés puis de dire, hey, vous positionnez où? Puis vous voulez être quel genre d'être humain? Puis surtout, elle se dit, bien, je peux faire une certaine éducation à mes enfants avec ce genre de contenu-là. Mais ça revient peut-être à l'esprit critique puis le développer, là. Mais puis la balance, elle est toujours meilleure quand on n'est pas aux extrêmes, là.
Mathieu qui dit « Salut, la grosse qualité des podcasts, c'est qu'il y en a pour tous les goûts sur différents sujets, ce qui implique qu'il y a parfois du bon et du moins bon, mais tout le monde a le droit à ses opinions. » Et Et s'il n'y a personne pour consommer, ben, ils vont tout simplement arrêter de diffuser. Je pense pas qu'ils vont arrêter de diffuser.
Ah, c'est consommé, là.
Ça les motive. Le genre de gars. Allez voir ça si vous
c'est
le voulez.
C'est tellement bien, écouté, là. Autant par des femmes que des hommes.
Lucid Podcast, les gars sont hyper motivés par les gens qui peuvent être outrés de leurs propos. Fait que plus vous les encouragez, plus ils vont rester là longtemps. Hey, Pascal, on en a parlé il y a de ça quelques semaines avec Mel Guilmette de Voyage Équaterra, Lévis, des gens qui partent de Québec vers des destinations soleil, puis qui voient leur périple complètement virer mal. Tu sais, c'est supposé être les plus belles vacances, là. On va se le dire, des vacances dans le sud,
ah,
t'es là pour relaxer,
tout, là.
T'es là pour t'amuser, te reposer aussi, tu sais, tu reviens, puis hey, j'ai passé une belle semaine. Puis il y a des Québécois qui sembleraient qu'ils se font droguer à leur insu. La dernière fois, c'était-tu en République dominicaine?
Oui, ouais, exactement.
Les épisodes qu'on a vus, donc République dominicaine.
Souvent dans le même complexe hôtelier. Là.
En plus.
Là, ce matin, on parle d'un homme de Gatineau qui est en voyage à Cancun. Un gars d'à peu près une cinquantaine d'années. Il a consommé un peu d'alcool sur le site de l'hôtel. Puis après ça, ben, il était en phase à un épisode de psychose. Il a fait un blackout total. Et on dit qu'on lui a servi simplement un shooter.
Il a pris ça, puis il est tombé complètement, là, plus contrôlable.
Pis ça faisait juste deux jours qu'il était arrivé au Mexique. Et, tu sais, on nous dit que le gars, d'habitude, quand il est sur le party, il fait juste danser, il est jovial, il a du fun avec tout le monde. Puis là, ben, c'était totalement le contraire. J'en ris, mais c'est pas drôle. Il était agressif, il courait partout. Il a mordu un membre de sa famille. Et le gars raconte que son frère a vécu un trou noir. Il se souvient absolument plus de rien. Ils l'ont retrouvé, il était à terre. Il aurait chuté dans les escaliers de l'hôtel. Il aurait été ensuite transporté en ambulance à l'hôpital pour soigner de nombreuses blessures. Mais bref, suite à ça, on s'est rendu compte qu'il aurait été drogué. Qu'est-ce qui se passe?
C'est pourquoi, tu sais, moi, je trouvais que quand on a parlé à Mel Guilmette, c'était vraiment intéressant parce que c'était de savoir le pourquoi derrière ça.
Ces gens-là se font pas voler.
Ben non, puis... Non. En tout cas, dans les histoires qu'on a eues récemment, ça n'avait pas de lien avec ça. Là. C'était du monde qui sortait par les fenêtres et qui se tuait, là, au final. Là. Ce qui est vraiment épouvantable. Mais c'est qui? Y a-tu genre une clique de psychopathes assassins, sociopathes qui se prennent plaisir à voir des gens mourir?
Dans le personnel de l'hôtel?
Ou à se désorganiser?
Ouais, c'est ça. C'est-tu quelqu'un qui lead ça?
C'est quoi la motivation?
Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose derrière, c'est certain, là.
C'est parce que le Mexique vit essentiellement du tourisme. Là.
Majoritairement,
ils n'ont
oui.
pas avantage à droguer des touristes. Là. La mauvaise réputation au Mexique, on veut pas ça. Surtout pour ce qui est des endroits où tu peux aller en vacances. Là, Cancun, Playa del Carmen, c'est des endroits qui sont très, très, très ouais. paisibles.
On a dit longtemps, mais le Mexique est quand même rendu dangereux dans certains endroits. Là. Il y a encore Baja California qui est correct parce que c'est encore régi, puis la police, il n'y a pas vraiment de corruption. Là, puis même qu'il y en a beaucoup de migration de Mexicains pour aller travailler là, pour être safe, si on veut.
Ouais, bien.
Mais même au sein de leur propre pays. Mais souvent, on parlait des complexes hôteliers comme étant des endroits sécuritaires, si tu veux voyager ben oui. dans des pays qui le sont mm-hmm. moins, tu sais. On se sentait toujours en sécurité dans ces complexes-là. Puis il y a quelque chose qui joue là, avec notre mental.
T'sais, ce qu'on m'avait dit, c'est que les cartels sont bien avertis. Ils peuvent gérer leurs affaires, mais éloignez-vous des touristes, éloignez-vous des plages à touristes. On ne veut pas qu'il y ait de fusillades. On veut qu'il se passe absolument rien là. C'est des endroits qui sont dédiés à faire des affaires pour avoir des touristes puis vivre de ça. Mais là, des voyageurs du Québec, il y en a eu plusieurs.
Ça se multiplie. Là.
Ça se multiplie. Puis je veux dire, lui, ça lui a coûté quoi? 5 000 $, je pense?
Ouais, une affaire de même. Puis vous voyez ses blessures là, sur la photo. Là.
Son séjour à l'hôpital, il aurait coûté près de 5 000 $. Voilà. Ils ont passé des tests. Et si j'avais passé la nuit là, ça aurait été à peu près 2 000 de plus. C'est fendu à la tête.
C'est complètement fou, les blessures.
Défiguré.
Ça t'inquiète-tu, toi? Mettons que je te dis tu t'en vas en vacances là, la semaine prochaine, là, tu y ouais. penses-tu?
Ben oui, je pense dans toutes les destinations, mais sais-tu quoi, j'y aurais pas pensé dans un tout inclus avant cette année. Je serais parti la tête complètement tranquille, l'esprit complètement tranquille.
Parce que je surveille jamais la personne qui fait mon verre.
Même pas ici.
Même
ou,
pas ici.
Jamais.
Non, je prends tout le temps la Coors Light. Là, fait que...
Il t'a des bouches devant.
Il ouvre ta Coors Light.
Mais dans le sud, je sais pas, ça peut être un mojito. Là,
quelqu'un qui écrit, essaies-tu des nouvelles drogues qu'ils fabriquent eux-mêmes?
Oh!
Il y a un petit cerveau là, qui réfléchit comme ça, même si on n'a pas la réponse. Là, je trouve ça intéressant.
Puis, tu sais, l'autre jour, j'ai eu une réflexion niaiseuse. T'sais, c'est-tu le fait qu'il y a des produits qui restent trop longtemps au soleil qui fait en sorte que ça dégage un genre de truc qui fait en sorte que ça a un lien avec notre cerveau une fois qu'on boit?
Initialement, ce serait pas une drogue.
Oui. Tu sais, un mélange que tu fais.
Là, c'est de l'alcool.
Il y a des produits, ouais, mais des fruits au travers de ça.
Je sais que tu te questionnais là-dessus. Très je...
L'hypothèse n'est pas...
Non, je pense qu'on aurait trouvé une corrélation.
On l'aurait trouvé, hein?
Oui, je pense que oui. La réflexion est intéressante, mais je pense qu'on aurait mis le doigt là, bien avant. Puis probablement que ton fruit il serait consommé dans plusieurs complexes.
Mais ici, quand tu te fais faire un verre dans un bar, tu le surveilles du début jusqu'à la fin?
Ben souvent, je suis au bar. Fait que je l'ai devant moi. Oui. Je vais te répondre que oui.
Parce que moi, dans la piscine à pisse, là... Puis je m'en vais, puis ils me l'ordonnent quand c'est correct. Moi, je
suis receptif. Moi aussi, c'est sûr que je me pose des questions. Je pars dans le sud dans deux semaines, puis je veux un pina colada ou je veux un mojito. Me poser des questions avant, puis je vais être comme, OK, est-ce que je prends la chance? Est-ce que j'y vais?
Quelqu'un qui écrit, voici mon hypothèse sur les morts suspectes en République ou ailleurs. Peut-être que ces personnes décédées ont voulu pimenter leur soirée et ont cherché de la drogue. Il est possible qu'il y ait eu un petit réseau de vente à même le personnel et que la drogue est très artisanale et dangereuse. Ça pourrait être 5 malheureux décès sur 5000 personnes qui ont acheté au fil des années. Je suis loin d'être tannant, mais moi, j'ai réussi à me procurer de la drogue assez facilement dans plusieurs pays. J'ai sûrement été chanceux dans mes stupidités. Tout ça pour dire que ça doit être plus fréquent que l'on pense que des gens osent essayer de la drogue de leur plein gré dans d'autres pays, mais que ça tourne mal.
Ben, ça se pourrait. Ça se pourrait que ce soit ça, des gens qui essaient de se trouver de la dope une fois rendus sur place. Puis
qui font confiance à n'importe quoi, finalement.
Qui essayent d'accuser les employés au Mexique.
On me dit aussi de mettre ça dans ses poches là, pour traverser. C'est pas toujours
non,
une bonne
c'est pas
idée.
Une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Hey, il est 13h42, on vient.
Marceau, le midi. Avec Marceau, Pascal CV et Thomas Gauthier.
Ah, même si je vous le dis, vous me croirez pas. Éric Girard est toujours dans le dossier de la Ligue nationale de hockey.
Arrête pas.
Il a comme objectif de ramener les Nordiques à Québec. Moi, qui étais un fan des Nordiques, je rêvais pendant longtemps. Il y a très peu de chances, à mes yeux à moi, que les Nordiques reviennent un jour.
Il y a une page Facebook sur le possible retour des Nordiques qui me fait tellement rire. Et une fois de temps en temps, une fois par semaine, ils vérifient, puis ah non, ils sont pas de retour. Ouais.
Et Rick Girard qui aurait rencontré Gary Bettman.
Ouais, dans la dernière semaine.
Et on aurait discuté d'une possibilité que les Canadiens de Montréal puissent jouer des matchs de saison régulière à Québec. Comment ça pourrait se passer? Le Canadien serait visiteur? Donc, on prendrait peut-être des clubs qui pognent un peu moins aux États-Unis. On les ferait jouer ici, local, puis le Canadien viendrait ici. Parce que pour Molson, il n'y a aucun intérêt à venir à Québec. Là.
Non, je pense pas non plus.
Je veux dire, tu restes là-bas à Montréal, c'est bien plein. Tes loges sont bien pleines. Pourquoi ils viendraient ici?
En fait, ce qu'Éric Girard a fait en rencontrant Gary Bettman, il a dit là, qu'il y avait de l'intérêt pour des matchs du Canadien. Comme tu l'as dit, Yann, en saison régulière. Puis là, il y a une citation notamment qui dit que le ministre « C'est que j'avais suggéré aux Canadiens de Montréal qu'ils étaient rendus maintenant à venir jouer un ou des matchs de saison régulière à Québec. Et que si les Canadiens, parce qu'ils sont indépendants, acceptaient de venir jouer des matchs à Québec, j'aimerais que la Ligue appuie cette initiative. » Puis selon lui, bien, la balle est maintenant dans le camp du Canadien de Montréal. Donc, c'est à suivre. Puis alors,
ça semble pas sérieux, par exemple.
Ben non, mais c'est parce que c'est non. Ça. Je me l'explique mal. T'sais. Le Canadien n'aurait pas avantage à déplacer son match local de Montréal vers Québec. Donc, l'inverse pourrait être plus possible. Mettons les Coyotes. Là. Les Coyotes pourraient jouer un match local ici, puis le Canadien serait visiteur.
Ça pourrait être une excellente... ça peut être une idée.
Ça serait beaucoup plus logique.
Mais évidemment que ça serait logique.
C'est de l'argent supplémentaire.
Puis on peut lire aussi, on sait que le gouvernement Legault prévoit débourser 5 à 7 millions de dollars pour la venue des Kings, mais le cabinet de M. Girard là, qui assure qu'il n'y a aucune somme qui serait déboursée pour des matchs canadiens au centre Vidéotron.
Il joue avec nos nerfs.
Hey, ça n'a pas de bon sens. Tout à Éric
Girard. Il détourne la lumière en ce moment de ce qui se passe avec l'immigration et la CAQ. J'ai l'impression que se sont dit, bon... Gérard, peux-tu sortir, s'il te plaît, sur les Canadiens? Non. La possibilité de les recevoir. Non, ça ne coûterait pas d'argent.
C'est fou, hein? Je me demande à CAQ qui réfléchit derrière toutes ces stratégies-là. Parce que ceux-là, avec le Canadien de Montréal, la Ligue nationale à Québec, je l'avais pas vu passer.
Tu penses-tu, mettons, tu sais, Drainville qui sort dans le troisième ligne, avec le troisième ligne de la dernière semaine, là, penses-tu que c'est lui qui a comme fait, OK, je vais le sortir? Tu penses-tu qu'il y a quelqu'un en arrière qui a dit... OK, sors ça.
Mais normalement, tout est pensé.
Oui, s'en suit.
Mais il peut peut-être y avoir des initiatives personnelles de ministres qui parlent trop puis qui se font avoir. Ça se peut.
Parce que c'est arrivé énormément dernière semaine et des derniers mois du côté de la CAQ.
Ils sont sûrement passés entre les mains de François Legault et d'autres que non. Là.
Parce que pendant qu'on surveille Girard avec son possible retour des Nordiques à Québec, là, j'ai tout le temps l'impression qu'il nous en passe une à quelque part.
Mais ça, c'est une stratégie politique connue.
Ouais, oui,
oui. Une éclipse médiatique. Ou annoncer quelque chose de très désobligeant pour la population, mais le faire comme le vendredi, 16h, ouais. Ou le dimanche.
On surveille ça pour vous autres. S'il se passe quoi que ce soit, on va vous le mentionner. Hey, juste de passer une agréable fin de journée. Denis, Véro et Audrey s'en viennent dans les prochaines minutes. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir, 18h pour ce qui est de Marceau le soir. À demain, 10h pour l'heure CV. Sinon, 11h pour Marceau le midi. Salut tout le monde.
Bye bye. Salut!
Je ferme les yeux.